Au menu cette semaine, match ultime pour le Rocket de Laval. Ce soir, on analyse tout ça avec Daphné Malbeuf et on reçoit en entrevue le recruteur des Prédateurs de Nashville, nul autre que Jean-Philippe Glaude.
Le podcast La Relève.
C'est un podcast de sport.
17 mai 2022, Anthony Desaulniers et Martin Thériault, une autre édition du podcast La Relève. Moi, ça fait pas longtemps qu'on s'est parlé. Là, on a eu un podcast ensemble, pas plus tard que dimanche dernier, avec les gars du TSLH Podcast. C'était le fun, belle expérience.
Arrête ça, déjà, on se parle tous les jours, là. C'est pas, on se parle pas simplement sur les podcasts, là. Non, sans farce, non, honnêtement, c'était super plaisant. Très, très belle discussion, belle table ronde sur les espoirs. Je remercie encore Mathieu Paradis, Pascal Lapointe, Simon Servant du TSLH Podcast. Très, très, très plaisant, puis je l'ai déjà dit hors des ondes à ces trois messieurs-là. C'est à refaire. Je pense que ça a plu à la maison. Donnez-nous-en des commentaires, mais je pense que ça a plu à pas mal tout le monde.
Ben oui, c'était le fun de les accueillir sur notre tribune ici. Puis là, on accueille une autre personne sur notre tribune. Elle est journaliste pour RDS. Elle couvre les matchs du Rocket de Laval. Daphné Malbeuf se joint à nous. Comment ça va, Daphné?
Salut les gars, très bien. Beaucoup de hockey, du bon hockey de la Ligue nationale, mais du bon hockey aussi dans la Ligue américaine. Et très heureuse que vous m'accueillez pour qu'on en parle aujourd'hui.
Es-tu stressée, là? Veux pas? Tu sais, je le sais qu'on a no cheer in the press box, là, mais quand même, ça risque que le Rocket dispute un match ultime ce soir face au Crunch de Syracuse. Ça passe ou ça casse. Comment est-ce qu'est l'ambiance autour de l'équipe?
Oui, ben c'est ça. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer l'équipe juste avant le début des séries, quand ils avaient l'opportunité de justement là, se tailler une place officiellement en série. Je pense que c'était le match du 22 avril, si je ne me trompe pas. C'était un vendredi, oui, exactement. Et l'ambiance, très honnêtement, je n'avais jamais vu ça chez le Rocket. Ça fait 3 ans que je suis un peu dans l'entourage de l'équipe. Bien sûr, l'année passée, on a peu eu la chance d'être avec eux parce qu'ils étaient dans une bulle. Mais juste de sentir cette fébrilité-là à l'approche de « Ah, on pourrait obtenir notre laissez-passer », juste ça, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Merci, là, honnêtement, Xavier Ouellet, que je côtoie, qui est un homme assez droit, puis c'est quelqu'un qui parle jamais d'un autre. Vraiment, là, je le sentais super fébrile, de bonne humeur, content. Je pense que, puis cette journée-là, j'avais une entrevue avec Nate Schnarr. Puis lui aussi, il me disait, puis je pense qu'on l'entend souvent, c'est un groupe spécial. Mais je pense vraiment que cette année, le Rocket a une chimie. L'année dernière aussi, on avait une certaine. Les joueurs, les vétérans ont changé. De nouveaux vétérans sont arrivés cette année. Tu te dis tout le temps, ah ben comment ça va se passer? Et je pense que ça se passe très, très bien. Et juste d'avoir eu la chance d'avoir le pouls du vestiaire un peu avant les séries, ben ça me donnait déjà un bon indicateur de comment ça allait se passer. Et je pense que c'est ce qu'on voit. Les gens aussi, les partisans à la Place Belle, je ne m'attendais pas honnêtement à ce que cette ambiance-là soit aussi électrisante. Et sincèrement, j'étais déçue parce que malheureusement, moi, j'étais en studio les deux matchs qu'on a fait, les matchs à la Place Belle, et j'étais au deuxième entracte, donc j'ai pas pu me rendre à la Place Belle, même si j'avais voulu, je serais pas arrivée à temps, malheureusement. Là. Donc, j'ai pas eu la chance d'assister à ça, mais juste pour vous donner une idée, Bruno Gervais, Stéphane Leroux, qu'on entend toujours parfaitement, premier match du Rocket le jeudi à la Place Belle, qui était le troisième match, qui était un match très important dans la série, évidemment. On avait des fois de la misère à les entendre. Et ça, je pense que ça donne aussi là, un bon indicateur de comment c'est à la Place Belle en ce moment. Donc, vraiment, puis tu le dis, tu sais, no cheer in the press box, donc je ne peux pas avoir un attachement. Mais je pense qu'on en a toujours un certain. T'sais, je pense que c'est de voir un Xavier Ouellet que je côtoie justement depuis 3 ans. Un Caden Primo aussi qui se développe de plus en plus. De voir un Jean-François Hull que j'ai interviewé avant le début de la saison, au début de la saison, au milieu de la saison, que je lui ai reparlé justement quand je suis allée faire mon entrevue avec Nate Schnarr juste avant la fin de la saison. T'sais, de voir l'évolution aussi de tous ces joueurs-là et des entraîneurs aussi qui étaient nouveaux dans leur rôle. C'est sûr que tu as un petit attachement. Et je pense que ce soir, on ne devait pas se rendre à ce match-là. On est là et c'est sûr que je vais regarder ça là, très, très attentivement. Et si, malheureusement, je garde un chien cette semaine, mais si je n'avais pas eu cette tâche-là, c'est sûr que je serais allée à Syracuse. Même si pour le travail, tu sais, on ne me demandait pas nécessairement d'y aller, je serais allée pareil. C'est vraiment juste parce que je garde un chien malade.
Ouais. Oui, c'est parce que tu es une vraie passionnée. Puis tu l'as dit, il ne fallait pas se rendre au match numéro 5. Malheureusement, le Rocket, ça s'est un peu moins bien passé dans le match 4. Autant l'ambiance était électrisante dans le match 3, très belle victoire. Plus difficile dans le quatrième match. À commencer par Mathias Norlinder, on le sait, arrivé de l'Europe, vient un peu en relance avec les séries du Rocket. Malheureusement, ça a été un peu plus difficile sur le premier but du Crunch.
Ouais, je pense qu'on l'a vu beaucoup. Là, moi, je l'avais trouvé quand même ordinaire dans le match numéro 3, match numéro 4, premier but. Ce qui me fait dire de Mathias Norlinder, c'est ce qu'on disait depuis le début, je crois. C'est un gars qui a une très bonne relance, qui a un très bon instinct offensif, mais défensivement, c'est difficile. Il me fait souvent mordre. Tu sais, des fois, tu mords un petit peu la lèvre intérieure là, parce que t'es comme « Seigneur, ça me le stresse ». Errant sur ce premier but-là, d'abord, manque de vitesse. Et manque de vitesse, mais manque de hargne. Tu sais, je pense que quand tu joues dans la Ligue américaine, et c'est ce qui a distingué le Rocket depuis le début avec Joël Bouchard, c'est que c'est des gars qui travaillent fort et tu peux pas te permettre de t'asseoir sur ton talent. Et je trouvais que, oui, manque de vitesse pour aller chercher le gars derrière le but, mais manque d'effort. Pour moi, c'est vraiment ça qui m'a accroché. Puis après ça, ben, il se fait battre de vitesse puis ne prend pas son homme devant le but qui mène au premier but du Crunch. Et c'est malheureux parce que le match avait bien commencé pour le Rocket et c'est le genre de but qui malheureusement déstabilise. Je pense que quand ce club-là, les attentes sont élevées et qu'ils se font marquer un but comme ça, c'est le genre d'équipe que c'est difficile d'aller rechercher ça. Il y a eu le match qui ont remonté un déficit de 3-0 en première période qu'on a vu juste avant le début des séries. Et ça, ça a été un match exceptionnel. Évidemment, c'est un match qui se devait de gagner. Tu vois que c'est une équipe de caractère, mais je pense que c'est une équipe qui est déstabilisée rapidement quand les attentes sont trop fortes et que l'émotion est trop forte. Je vous donne un exemple. Là. J'en parlais à Anthony juste avant qu'on parte le podcast, mais moi, c'est vraiment ça qui m'a donné la puce à l'oreille, je pense, de dire... Oui, la soirée où est-ce qu'il fallait qu'ils se taillent une place en série, c'était contre les Marlies et ça a été un match épouvantable, défaite de 5-2. C'était un match qui était sale comble déjà à la base. Puis là, de se dire, hey, on a la chance de donner ça à nos partisans, d'avoir la victoire puis d'entrer en série. Le momentum, les attentes et les émotions étaient trop élevées. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi dans le match numéro 4 parce que le Rocket avait bien commencé le match, était aussi sur le momentum du match numéro 3 qui s'était bien passé. Mm-hmm. Et là, ben, le premier but vraiment, je ne veux pas dire que c'est la faute de Norlinder, mais c'est un but très important et qui a fait dérailler le train par la suite. Ouais. Et je me dis, c'est le genre de leçon, évidemment, que tu apprends en tant que jeune joueur. Je pense que c'est une bonne chose de l'amener là, de lui faire vivre ces expériences-là en série. Je pense que si on est en reconstruction chez le Canadien, là, toute l'importance de faire jouer tes espoirs en série, d'avoir de l'expérience en série, c'est jamais perdu. Tout le monde sait ça. Mais je pense que c'est difficile pour Norlinder présentement. Et aussi, il ne faut pas oublier que d'amener un joueur qui n'a pas joué avec ton équipe, qui n'a pas créé de chimie, ça aussi, c'est un couteau à double tranchant. Je comprends que l'organisation veut faire jouer ses espoirs puis les espoirs les plus importants, puis ils veulent voir comment ils vont se débrouiller. Mais je pense que pour la troupe de Jean-François Hull, ça devient difficile à un moment donné de créer une chimie artificielle en quelques jours seulement.
Hey, tu parles de Norlinder, que ça a été un peu plus difficile, Marty. T'sais, on parle de leçons. Est-ce que Jean-François Hull ne tente pas justement de lui en servir une leçon en probablement le laissant de côté ce soir dans un match ultime?
Ben, j'irais pas avec une leçon, tu sais, Daphné l'a bien expliqué, il y a quand même eu des revirements vraiment majeurs, le match numéro 4, ouais. Écoute, j'ai regardé le match, il lui a fait confiance au début du match, il a joué à peu près un temps de jeu d'un défenseur top 4 en première période, mais aussitôt que la deuxième période a commencé, deux ou trois revirements très majeurs, écoute, j'ai une séquence en tête, là, Alex Barry-Boulay est en fond de territoire, fait ce qu'il veut avec Norlinder est constamment hors position. Puis t'es en série des autres. C'est bien le développement, mais là, tu veux gagner la Coupe Calder. Tu veux te rendre le plus loin possible. Tu peux pas te permettre d'avoir une erreur comme ça à un moment aussi crucial. Et t'as d'autres bons défenseurs avec le Rocket qui font un très bon travail. Je pense à Toby Paquette-Bisson qui, moi, m'impressionne depuis 2 ans. C'est la surprise, lui, de ce côté-là. Moi, ce qui me fait peur, par contre, des autres, dans le cas de Norlinder, tu sais, je t'en avais parlé il y a quelques semaines en Suède, je disais, j'ai l'impression qu'il perd son identité. C'est son côté de transporter la rondelle, d'être en zone adverse, de déjouer constamment les défenseurs, d'être très mobile. Il est plus gros physiquement, mais ça lui a pratiquement fait perdre sa principale qualité. Et là, si malheureusement, il n'est plus aussi offensif et qui continue d'avoir des problèmes sur le plan défensif à ce niveau-là, c'est un peu inquiétant. J'espère que ça va se replacer pour lui, mais moi, je suis franchement inquiet. Est-ce qu'on pourrait le perdre? C'est dommage parce que là, s'il y a des lacunes défensives, écoute, tu es aussi bien d'utiliser, par exemple, un Nicolas Mattinen qui a quand même bien fait en fin de saison, rendu là.
Oui, puis c'est drôle que tu dises ça parce que regardons un exemple récent et concret de quelqu'un qu'on a fait prendre de la masse musculaire en Jesperi Kotkaniemi et ça ne lui a pas servi. Et on a tenté de le mettre dans un rôle qui ne lui ne fitait pas du tout. Et tu as vraiment raison de dire que ça fait peur pour la suite des choses. Et de là où est-ce qu'on parle tout le temps du développement chez Canadiens, c'est tellement important. Les joueurs ont besoin d'être encadrés. Puis le gars est allé rejouer en Suède, ce qui est correct, là. Mais le développement en Amérique du Nord, regarde un Yann Michak qui a tout appris dans la Ligue de hockey de l'Ontario cette année et qui fait très bien et qui fait encore mieux en série. C'est vraiment, tu vois là, toute l'importance de ramener par ici les gars qu'on développe en Europe, oui, mais à un certain moment, il faut les rapatrier puis il faut trouver un cadre. Puis comme tu le dis, c'est beau de le voir... avoir un très bon instinct offensif. Puis il y a eu quelques bons flashs là, dans les matchs 3 et 4, c'est pas ça que je dis, mais défensivement, c'est tellement difficile. Puis je pense que justement, il est tellement nerveux, il sait qu'il faut qu'il fasse bien défensivement, puis ça lui fait perdre son identité parce qu'après ça, il est tout le temps sur le... J'ai l'impression qu'il joue sur la pointe des pieds, puis de transporter la rondelle, puis de faire des sorties de zone, ça devient extrêmement difficile parce que je pense qu'il manque de confiance à ce niveau-là.
Hey, mais on parle de confiance... Je veux quand même passer sur un autre joueur qui, lui, a démontré aucune nervosité durant ces séries-là. Et lui aussi a reçu des tomates à quelques occasions depuis le début de la saison. C'est Kaelin Primo. D'excellentes statistiques, très solides. Il y a eu beaucoup de noirceur dans le match numéro 4, mais Kaelin Primo ne peut pas lui lancer la pierre. Il a été très efficace devant son filet. Ce sera probablement lui, le gardien partant ce soir. Je n'ai pas eu le temps de vérifier si ça a été confirmé. Moi, c'est une de mes belles révélations de ces séries-là parce que c'est en série qu'on voit si les joueurs qui montrent leur vrai visage, ceux qui sont capables de performer sous la pression. Et Kaelin Primo, 2.05 de moyenne, 939 d'efficacité. Difficile de reprocher quoi que ce soit, là.
Je suis vraiment contente qu'on en parle parce que c'est un sujet qui revenait souvent cette saison, surtout sur Twitter, là, vu que je pense que je suis pas mal étiquetée Rocket. Et il y avait beaucoup de commentaires par rapport à Kaelin Primo. Et encore là, j'ai souvent l'impression que je suis là à défendre la veuve et l'orphelin, mais... Oui, quand je crois en des joueurs, tu sais, je pense que j'ai eu le privilège aussi de le côtoyer quand même assez souvent pour savoir que c'est un gars qui est très stressé. La confiance chez les gardiens, ça fait foi de tout. Et je pense que chez Kaelin Primo, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler et qui va se développer éventuellement, mais ça prend du temps. Et regardez la situation de Kaelin Primo. N'a pas joué excessivement de matchs parce que, bon, 2019, après ça, la pandémie. Et cette année, le plan était de le faire jouer le plus de matchs possible dans la Ligue américaine pour qu'il poursuive son développement puis qu'il arrive à avoir un niveau de confiance qui était acceptable. Ce qui n'est pas arrivé avec la situation qu'on connaît chez les gardiens, chez les Canadiens. Il ne faut pas oublier ça. Moi, c'est ça que j'essaie de répéter aux gens, c'est que le gars était censé avoir du développement dans la Ligue américaine. Puis là, ce n'est pas ça du tout qui se passe. Puis en plus, il ne joue pas en haut, il ne joue pas plus. Puis quand il joue, ben, il donne un mauvais but, il perd confiance. Puis il ne peut pas la rattraper, cette confiance-là, dans la Ligue américaine parce qu'il y a un gars très bon du nom de Kevin Poulin qui a un peu pris sa place. Et le 22 avril, lorsqu'il devait jouer, j'avais eu cette conversation-là avec le collègue Anthony Marcotte qui me disait, tu sais, Jean-François Hull, il est pas là, comme tu disais, Marty, tu sais, il est pas là pour coacher pour un moment donné, tu sais, oui, le développement, c'est bien beau, mais il est aussi là pour gagner. Et il fera pas de faveur à n'importe qui. Et il avait décidé d'y aller avec Kevin Poulin cette journée-là. Et ça, c'était une décision qui était très importante parce que ça disait le niveau de confiance qu'il avait en Kaelin Primo versus en Kaelin Poulin. Puis Kaelin Primo venait de connaître une séquence où est-ce qu'il était monté-descendu comme un yo-yo. Et Kaelin Poulin, cette journée-là, malheureusement, là, je vais le dire, c'est pas de sa faute, mais il a mal performé. Il a donné deux buts qu'il n'aurait jamais dû donner. Et les deux matchs suivants, ça a été difficile aussi pour Kaelin Poulin. On a refait confiance à Kaelin Primo. Et hop, Kaelin, confiance, par-dessus confiance, par-dessus confiance. Sa confiance se bâtit et il arrive. Et je suis vraiment contente qu'on en parle. Et je suis vraiment contente que ce soit ça que ça donne comme résultat parce que c'est un gars qui l'a. La technique, il l'a à 1000%. Il reste juste à travailler ça. Et je trouve que c'est le meilleur exemple qu'on n'aurait pas pu avoir de Caden Primo en confiance, en pleine possession de ses moyens. Et je trouve que c'est vraiment rassurant dans son cas. Et honnêtement, les gens, quand vous y pensez, je parlais avec un gardien qui a vécu aussi même chose à Montréal, qui s'est déplacé dans la Ligue américaine par la suite, puis que quand il y a eu ses opportunités cette année puis l'année dernière, il a bien fait. Des fois, il faut juste cette confiance-là, ça prend du temps à travailler. Puis ce que ce gardien-là me disait, puis on veut garder ça, je veux garder le nom pour moi, mais c'est un gardien qui en a vécu, puis qui disait, mais à quoi les gens s'attendent, c'est ça. Il répondait au tweet, en fait, que moi, je répondais, puis il m'envoyait ça en privé, puis il disait, mais qu'est-ce que les gens pensent, tu sais, ça se bâtit pas en criant oiseau ou une confiance. Non, mais c'est vrai. Je pense que souvent, les gens l'oublient beaucoup. Puis dans les cas des gardiens de but, c'est extrêmement important. Et je pense que pour la confiance, ne serait-ce que de Caden Primo, ne serait-ce mis à part que c'est rassurant pour nous et pour le Canadien, je pense que pour lui, ça va vraiment jouer en faveur pour la suite des choses dans son début.
Mais tu parles de confiance. Écoute, j'ai regardé le match numéro 3. Écoute, il a très, très, très bien fait. Il a été ovationné par la foule. On scandait son nom. Penses-tu que ça peut l'aider, ça?
Ben oui, vraiment. C'est vraiment un garçon qui va comme ça. Je sais pas. Je l'ai côtoyé quand même souvent. Des fois, il y a eu une bonne game. L'entrevue va être bonne. Il y a eu une moins bonne pratique. Ça se peut qu'il soit un peu plus silencieux et dans sa tête. Il me fait un peu penser à Carey Price, ce gars-là, dans le sens où il est énormément dans sa tête. Et je pense que, ben oui, juste d'avoir l'encouragement de la foule, je pense que ça l'a transporté. Puis regardez les gars dans le match numéro 4, ce gars-là a quand même fait la différence. Je pense que ça aurait pu être bien plus élevé en arrivant en troisième période. Il a sauvé les meubles à plusieurs reprises et il a montré qu'il était en confiance, en pleine possession de ses moyens, jusqu'à temps que sur le deuxième but du crunch, il soit complètement déporté parce qu'il y a eu obstruction. Mais ça, c'est une autre affaire.
OK, mais Daphné, comment est-ce que tu t'attends à ce qu'il rebondisse ce soir? Parce que là, on s'en va en terrain hostile. C'est bien beau l'appui de la foule quand on est à la place Belle, mais sur la route, dans un match éliminatoire, où est-ce que la pression ne peut pas être plus élevée? Comment tu t'attends à ce qu'il réagisse?
Vous savez, on dit souvent, je pense qu'on le disait l'année dernière avec Carey Price, quand il y a un mauvais match ou un moins bon match ou en série, juste pour démontrer à ses coéquipiers qu'il a encore la confiance puis qu'il est tout là, lui, dans sa tête, il est là à 100%, il faisait des arrêts plus gros que qu'est-ce qu'il devait faire juste pour montrer qu'il a confiance puis il est en pleine possession de ses moyens. Ce que j'ai aimé de Caden, c'est qu'il ne s'est pas affaissé après le deuxième but du crunch et qu'il est resté, concentré dans sa bulle et à faire de bons arrêts jusqu'à la fin du match. Moi, c'est ça qui me donne une idée de... Je pense qu'on peut être en confiance pour le match de ce soir parce qu'il n'a pas perdu cette confiance-là au cours de la troisième période. Je pense que c'est ça qui me démontre, moi personnellement, pour avoir côtoyé ce jeune homme-là, qui va être prêt pour le match de ce soir. Et il y a une équipe derrière lui, des vétérans de caractère. Et je pense que tout ça, cette ambiance-là, malgré qu'il soit en terrain hostile, puis oui, ça va être difficile, je pense qu'il se nourrit de ça. Il se nourrit aussi des gens qui ont scandé son nom quand même au match numéro 4 parce que les gens savaient qu'il avait joué un très bon match. Je pense qu'il va vraiment se nourrir de ça puis de l'énergie aussi de ses coéquipiers qui vont vraiment avoir le couteau entre les dents.
Daphné Malbeuf, merci beaucoup de ta présence au podcast La Relève. C'est très apprécié. Pour la première fois, on avait une dame sur notre podcast, puis ça a bien été. Merci beaucoup, Daphné, d'avoir été avec nous.
Ben, merci, les gars. Mon Dieu, j'ai l'impression que j'aurais pu parler encore pendant une heure et demie.
Ben oui, mais on est en un horaire très chargé. Là. On peut pas trop jaser longtemps. Là.
Je comprends. Ben, en espérant que le résultat soit positif, puis on verra si j'avais raison de croire en Caden, quoi.
Ah, on va surveiller ça ce soir, disponible sur le rds.ca et au 91.9 Sport. Merci, Daphné.
Merci, les gars. Merci, Daphné.
Salut. Alors, Marty, es-tu confiant ce soir, toi, pour le Rocket? Attends-tu une victoire?
Pas nécessaire. Je vais t'en être avec toi. Je trouve que le Crunch de Syracuse joue quand même bien. Ils ont un style quand même rapide. Ils attaquent la zone neutre avec beaucoup de vitesse. Ça, je te dirais que ça m'inquiète peut-être un petit peu pour le Rocket. Mais par contre, du côté de Laval, lorsqu'on connaît de bons matchs, on est intense, on applique beaucoup d'échecs avant. On n'a pas parlé d'un Raphaël Harvey Pinard parce qu'on était un peu pressé par le temps, mais un gars comme Harvey Pinard fait son rôle. C'est pas quelqu'un qui qui ressort vraiment beaucoup au niveau de l'attaque, mais dans les détails, dans ce qu'il doit amener lors d'un jeu de série, je pense que c'est très bon. Donc, tu sais, je pense que c'est ça. Ça va être un bon match intéressant. Là, comme Daphné l'a dit, Syracuse, c'est un milieu qui est intimidant. Je trouve ça rassurant d'entendre qu'un Kaden Primo peut se nourrir d'une pression comme ça. Mm-hmm. Ils vont avoir besoin de leur gardien de but, Rocket, j'ai bien l'impression.
Ouais, puis tu parles de pression, tu sais, veux pas. On a identifié Kaden Primo comme un potentiel gardien de but numéro 1 dans la Ligue nationale. Il a fait le yo-yo et la navette tout au long de la saison. Ça n'a pas été toujours facile à Montréal. Et quand il retournait à Laval, il n'avait pas nécessairement la confiance et ou l'expérience pour recommencer à bien performer. Donc là, de le voir bien performer, ça va être intéressant pour la suite des choses. En tout cas, moi, je lui souhaite, bien évidemment, à Primo et au reste de l'équipe du Rocket, de passer au tour suivant. Marty, on a reçu une question sur Twitter, puis avant qu'on enchaîne avec notre prochain invité qui devrait être là dans quelques secondes. Les Islanders de New York ont mis sous contrat, ont donné le poste d'entraîneur-chef à Lane Lambert, qui se trouve être l'oncle de Brad Lambert. Et je me souviens plus l'intervenant, je pense que c'est Félix qui nous posait la question. Est-ce que tu penses qu'ils vont être tentés de se laisser aller pour choisir Brad Lambert, justement, les Islanders?
Tout d'abord, je remercie beaucoup Félix pour cette question-là. C'est très, très, très pertinent. J'y avais même pas pensé avant que Félix nous soumette cette question-là. Là. Écoute, je regarde les choses là, dans le cas de Brad Lambert. On en a parlé avec nos amis du TSLH podcast dimanche. Puis la tendance de Brad Lambert va beaucoup à la baisse. Je te dirais que dans mon classement de mi-saison, moi-même, je l'ai placé, si je ne me trompe pas, c'était cinquième. Ça va déjà, mais là, ça va de plus en plus à la baisse. Il y a eu des séries quand même difficiles. On commence à avoir du questionnement, notamment de mon côté. Là, je m'en suis pas caché. Je trouve que son intensité ne me plaît pas nécessairement. Je trouve qu'il n'est peut-être pas toujours dans l'action et son jeu en périphérie peut inquiéter également. Le fait qu'il ait changé d'équipe aussitôt que ça, à la première embûche, c'est quelque chose d'assez inquiétant également. Donc là, s'il continue à baisser, qu'on parle moins d'un espoir top 5 et davantage d'un espoir top 20, si on veut, les Islanders de New York, eux, repêchent au 13e rang. Et là, ça devient très plausible sur cet aspect-là. Le fait que Lane Lambert est maintenant l'entraîneur-chef, s'il y a quelqu'un de bien placé pour connaître Brad Lambert, c'est bien Lane Lambert. Et de l'autre côté, j'apporterai cet élément suivant. Les Islanders de New York, traditionnellement, au cours des 4 ou 5 dernières années, là, ont tendance à sélectionner des joueurs. Selon les experts comme nous, là, comme ceux qui dressent des listes et tout ça, on les place très haut. Là, il y a parfois des joueurs qui glissent. Et les Islanders ont souvent la réputation de repêcher ces joueurs-là qui glissent et les obtenir un petit peu plus tard. Je te donne des exemples. 2018 est probablement le meilleur exemple. Un Oliver Wahlstrom et un Noah Dobson qui ont été repêchés 11e et 12e. Il y a des gens qui les avaient beaucoup plus haut que ça. Moi-même, là, Dobson, je l'avais 5 ou 6e. Même chose pour Wahlstrom. Je les adorais lors de leur année de repêchage. Bode Wild était quelqu'un qui était très, très, très bien perçu dans la communauté du recrutement, sorti au deuxième tour. Atu Ratu, le fameux Atu Ratu qui était prévu pratiquement premier au total à un certain moment l'an dernier, finalement a été repêché au deuxième tour. Qui le prend? Les Islanders de New York. Donc, ça serait peut-être un peu dans leur ADN de le prendre. Je trouvais pas ça fou nécessairement.
Oui, puis honnêtement, c'est une chose, mettons, que les Devils ont repêché Anthony Brodeur en 7e ronde ou encore le Canadien avec Donald et Daniel Audette. Mais ça en est une autre lorsqu'on parle d'un choix de premier tour. On ne fait pas le même genre de cadeau. Donc, même chose pour Ken Hughes et Jack Hughes au final. Donc, je serais quand même surpris que ça l'influence la décision des Islanders de New York. Marty, on va passer à la prochaine partie de notre podcast avec Jean-Philippe Glaude, recruteur des Prédateurs de Nashville. Comment ça va, Jean-Philippe?
Salut les boys, ça va bien, merci.
Merci d'être avec nous, JP, c'est bien apprécié.
Yes, ça fait plaisir.
On présume que c'est une période qui doit être assez occupée pour toi. T'sais, évidemment, il y a eu les moins de 18 ans que tu as dû suivre avec grande attention. Comment tu y arrives là, de démêler avec autant de hockey à l'approche du repêchage?
Moi, je dirais qu'actuellement, si la pandémie nous a ralenti, là, je peux te dire que depuis 2-3 mois, c'est très, très intense. Autant effectivement le moins 18 qui a eu lieu en Allemagne, autant après ça les réunions qu'on a, nous, avec notre organisation à Nashville. J'étais là la semaine dernière. Après ça, tu as les séries de la LHGMQ, séries de la OHL. À travers ça, tu as le Combine qui s'en vient. Tu as les entrevues avec les joueurs. T'as, à travers ça, la Coupe Memorial aussi qui va avoir lieu à la fin juin. Je te dirais que comment tu te démêles, ben, tu planifies, tu te structures, tu t'assures que les joueurs que tu as dans ta liste, tu veux les revoir fréquemment. À travers ça, tu parles aux gens autour de ces jeunes-là. Mais tu sais, je pense que la clé, c'est d'avoir ton horaire bien, bien structuré.
Je suis curieux de t'entendre. Il y a le championnat mondial qui est en Finlande en ce moment. Est-ce que vous regardez ça quand même pas mal ou c'est vous regardez ça un petit peu comme c'est là?
Ben, en fait, il y a des recruteurs européens, nous, qui sont là sur place. Là. Ils vont rester peut-être une semaine. Je ne sais pas exactement leur horaire. Mais oui, on le regarde parce qu'il y a des joueurs qui sont là-bas, qui sont éligibles au repêchage 2022. Donc, c'est certain que tu sais, tu veux les voir dans différents formats de match, différentes séquences. Puis ça, ben, tu sais, c'est contre des joueurs plus vieux. Donc, c'est intéressant de voir ces joueurs-là. Puis on a trois recruteurs qui sont là.
Jean-Philippe, chaque équipe a un peu son propre style de jeu. T'sais, je pense notamment aux Flyers de Philadelphie, on va y aller peut-être plus pour la robustesse. Les Hurricanes, on y va pour le talent. Des équipes qui c'est plus la vitesse. Alors, on a une question de Jean-Maurice qui te demande qu'est-ce que Nashville recherche comme qualité première chez un espoir?
Ben là, des fois, tu sais, les gens, ils ont de l'extérieur, tu vas dire, bon, ben, les Flyers sont robustes, mais si tu parles aux gens à l'interne chez Flyers, je pense pas que c'est la première chose qu'ils vont rechercher chez un joueur. Tu sais, je veux dire, il faut pas non plus, comme organisation, seulement te focusser sur une, deux qualités. Tu sais, toutes les organisations recherchent un peu le même style de joueur à quelque part. Tu sais, dans le sens que quand tu t'assois au repêchage, puis nous, le repêchage commence, puis les noms se mettent à sortir, ben. Tu sais, je veux dire, on a possiblement tous les mêmes noms pour peut-être les deux, trois premières rondes. Là, après ça, souvent, ça part un peu dans tous les sens. Tu sais, mais tu sais, à la base, tu veux des jeunes. Puis tu sais, je parle pour Nashville, mais je suis convaincu que je parle pour beaucoup d'organisations qui ont une bonne tête. Tu sais, je veux dire, tu sais, des bons joueurs de hockey. Là, tu sais, pas. Les jeunes qui, malheureusement, ont de la misère à s'adapter à la vitesse du jeu ou en espace restreint. Ben, tu sais, évidemment, à un moment donné, ils vont avoir de la misère à progresser. C'est souvent la clé, tu sais. On parle de hockey sense, ben, tu sais, je vois des jeunes qui continuent toujours de s'améliorer parce que leur hockey sense est vraiment exceptionnel. Puis peu importe le niveau qu'ils vont jouer, ils vont s'adapter. Des jeunes qui, à un moment donné, utilisent leur vitesse, leur physique en bas âge, mais en vieillissant, à un moment donné, ont peut-être la difficulté parce que la vitesse augmente et qu'ils sont pas capables de s'adapter au jeu parce qu'en vieillissant, c'est l'espace sur la glace qui se réduit, hein, tu sais, je veux dire. Que tu joues à Tombe ou que tu joues Midget 3, c'est la même surface. Donc, tu as moins d'espace, moins de temps. Donc, si tu n'es pas capable de t'adapter, ben souvent, malheureusement, tu vas avoir de la misère rendue à un certain niveau. Tu sais, je veux dire, il y a des défenseurs de 6 et 5 qui sont exceptionnels. Il y a des defs de 5 et 11 qui sont tout autant. Donc, tu sais, oui, la grandeur, mais à quelque part, tu veux que le jeune ait une bonne tête. Puis, tu sais, après ça, ben, il y a tout l'aspect en dehors de la glace qui, selon moi, compte autant ou sinon plus de ce que tu vois sur la glace.
Hey, je trouve ça intéressant, JP, que tu nous parles de, tu sais, justement du rythme de jeu, etc. Bon, que, par rapport au junior versus la LNH, qu'il y a vraiment une grosse différence. Qu'est-ce que tu dirais que c'est ça la principale chose à décortiquer chez un espoir? Je nommerai pas de nom, mais tu sais, par exemple, quelqu'un qui a des statistiques ahurissantes, 80-90 points dans la WHL, par exemple. Puis là, ça peut être. Là, tu peux le voir 5 ans plus tard, puis là, c'est plus difficile dans la LNH. Tu sais, c'est le principal facteur qui peut justement influencer et dire comment ça, ce gars-là avait 100 points dans le junior, finalement, il n'est pas capable d'avoir de carrière. Tu sais.
Ben, c'est. Ça, c'est un autre point intéressant dans ta question. C'est que si tu me demandes c'est qui les 10 meilleurs marqueurs de la LHGMQ, je vais être très honnête, j'en ai aucune idée. Puis je fais ça en temps plein. La raison, c'est qu'honnêtement, je ne porte pas vraiment attention. Tu sais, je sais qui ramasse des points, mais je sais très bien que ça n'a aucun impact nécessairement sur ce que le joueur va devenir plus tard puis sur ses qualités. Il y a des joueurs qui vont ramasser des points en power play. Il y a des joueurs qui sont invisibles. Ben, ils ramassent 2 petites passes, 3 petites passes. Puis, tu sais, les gens font un genre de highlight of the night, 3 assists, 4 assists. Tu sais, je veux dire, Fred Gaudreau n'avait pas 10-15 points à 10. Oups! Excusez-moi, les boys, je vous ai échappé. Fred Gaudreau me renverse depuis qu'on l'avait signé comme agent libre. Mais, tu sais, Fred Gaudreau, cette saison, une saison de 50 points dans la NHL, mais à 18 ans, il jouait sur la 5e ligne à Shawinigan dans une année de Coupe Memorial. Puis, tu sais, il n'avait pas fait 10 points. Fait que, tu sais, je veux dire, la raison, ben, c'est que certains, justement, ils ont tellement une bonne. Je reviens au hockey sense, on a tellement une bonne compréhension du jeu qu'ils vont tout le temps être capables de s'adapter, continuer à grandir là-dedans. Puis certains, des fois, ont des rôles prédéfinis, puis après ça, ben, ils essaient de garder le même rôle à un autre niveau. puis sont incapables. T'sais, on dit un attaquant top 6, top 3 dans la LHJMQ, par exemple. Bon, ben, il produit, produit, produit. Mais je peux vous dire une chose, les boys, je vous invite à un camp des recrues ou un tournoi des recrues dans les équipes NHL au mois de septembre. Puis des attaquants qui veulent être top 6, je peux vous dire une chose, attachez votre sucre. Là. Je veux dire, il y en a de partout. Puis t'es mieux d'être, tu comprends, t'es mieux de savoir faire d'autres choses que juste produire sur le powerplay. C'est un peu ça mon point. Donc, je veux dire, je reviens à mon point de te dire que les stats, j'accorde très, très peu d'importance parce que de toute manière, quand les jeunes s'applique à jouer de la bonne manière, faire les détails. Tu sais, tout à ce qu'on entend des entraîneurs, mais tu sais qu'éventuellement, les points vont venir. Puis de toute façon, ben il y a des jeunes qui sont draftés haut, qui n'ont pas nécessairement autant de points que d'autres. Puis là, le monde se demande, ben comment ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, ils ont juste regardé les stats. Ils n'ont pas regardé 150 matchs pendant l'année.
Fait que je veux pas être plate, Alex, mais JP ne doit pas regarder beaucoup tes faits saillants du jour dans la GMQ.
ça, c'est faux, par exemple. J'y regarde. Okay. Surtout quand je suis sur la route le matin, je vais m'entraîner, je mets tous les faits saillants au complet pour me garder quand même une tête de savoir qu'est-ce qui se passe, bon, etc. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je prends pas le temps d'aller analyser toutes les stats, qui score, qui marque pas, etc. Ouais. Je veux dire, c'est pas des données vraiment qui m'intéressent personnellement. Là.
Okay. Merci de contribuer à augmenter nos revenus comme auditeur, JP. Bien apprécié.
Jean-Philippe, tu parlais de Fred Gaudreau. Est-ce que tu dirais que c'est ta plus belle prise en carrière? Sinon, qui t'es le plus fier dans ta carrière de recruteur?
Bon, tu sais, c'est assez dur à dire parce que chaque année, c'est une nouvelle année. Hein, tu sais, puis Fred Gaudreau, c'est sûr, c'était ma première saison. Là. J'étais une recrue comme recruteur de NHL. Puis c'était une long shot, là, tu sais, je veux dire, on était, de mémoire, il y avait deux équipes, mais possiblement une plus qui voulait signer un contrat à Ligue américaine, puis c'était juste nous, à Milwaukee. Donc, tu sais, j'avais eu l'aide aussi de mes collègues recruteurs américains qui étaient venus avec moi pour aussi pousser cette histoire-là, mais c'est sûr que Fred, ça a super bien tourné. Tu sais, je veux dire, après ça, tu as des Alexandre Carrier, qui c'est quand même un choix de quatrième ronde, qui est rendu sur le top 4 à Nashville. Ça a pris plus de temps, mais Alex aussi, c'était dans ma deuxième saison comme recruteur. T'sais, Yakov Trenin, que je joue à Gatineau, Yakov, c'est un choix de deuxième ronde, mais là, c'est rendu un gars de 20 buts dans la NHL. Sam Girard, je veux dire, c'est un beau moment, là, Sam. Honnêtement, j'avais encore des sueurs quand on arrivait pour le repêcher parce que je voyais le nom qui était encore sur notre liste. Il était toujours premier, puis je voyais que les choix commençaient à débouler, puis que finalement, il restait premier parce que personne ne le prenait. Ça a été un beau moment, puis de voir comment Sam, c'est sûr qu'il a été changé, mais là, ça fait plus partie de mon c'est pas entre mes mains, hein, c'est plus moi rendu là, mais c'est sûr que Sam, ça a été de le voir comment il joue, il va atteindre les 400-500 matchs dans pas long, parce que c'est incroyable, il a parlé depuis qu'il a 19 ans, il joue dans NHL. C'est tous des joueurs comme ça qui sont, puis tu sais, Mathieu Olivier, Matt, c'est un agent libre encore, qu'on a réussi à rentrer. Zach Lheureux, j'ai hâte de voir Zach comment il va virer dans les prochaines années. Fait que tu sais, chaque joueur a son histoire, c'est difficile d'en nommer un. Le premier, Fred Gaudreau, ça reste toujours spécial parce que tu vois sa progression, puis ça te confirme un peu ce que tu mets de l'avant, de dire bonne attitude, joueur dédié à la cause, joueur qui met l'équipe en avant de ses intérêts personnels, hockey sense, entre guillemets, élite. Fait que c'est toutes des qualités que moi j'aime mettre de l'avant quand je veux voir des matchs. Donc, je pense que ça reste quand même un beau modèle.
Mais tu sais, quand tu dis, c'est pas entre tes mains, il a été échangé, tu sais, je comprends que la transaction se fait, mais est-ce que, en tant que recruteur, on éprouve une petite déception? Es-tu déçu de le voir partir?
Ben, tu sais, il y a deux côtés à médaille. Hein. Il y a le côté émotif de dire, tu sais, ça te fait un petit quelque chose parce que de le voir produire ailleurs, c'est un petit pincement au cœur parce que tu l'as vu jouer à Shawinigan pendant 3-4 ans, tu l'as vu grandir ici, tu l'as poussé, etc. Par contre, à l'époque, nous, c'était vraiment pour y aller pour une deuxième, essayer de tenter d'y aller pour une deuxième finale de la Coupe Stanley. Donc, à ce moment-là, tu comprends l'organisation. Puis en même temps, c'est un peu un genre de... pas une tape dans le dos, mais c'est quand même une reconnaissance de dire ben, que le joueur, en guillemets, qui est dans ton territoire, que toi et tes collègues avaient réussi à ramener, faire repêcher, ben, qu'on l'utilise pour s'améliorer. Ça veut dire que ben, tu sais, il y avait une belle valeur, puis... fait que tu sais, il y a comme deux côtés à médaille, mais là, je veux dire, après toutes ces années-là, on comprend mieux que c'est vraiment, ça fait vraiment partie de ce business-là. Hein, tu sais, plus que tu as de bons jeunes, etc., ben, tu peux à un moment donné manœuvrer comme Colorado a fait cette année. Hein, tu sais, Colorado s'est mis à échanger Justin Barron, Drew Ellison, des choix de première, deuxième ronde, parce que là, eux, ils croient pour cette année. Donc, c'est le cycle un petit peu. Nous, on l'a vécu à l'époque. Puis Sam, ben maintenant, ben je l'ai vu nous battre la semaine passée au quatrième match à Nashville.
Hey, je veux revenir sur Frédéric Gaudreau. Je suis un peu curieux. Qu'est-ce que tu avais vu chez lui lorsque vous lui avez donné un contrat comme joueur autonome? Parce que moi, personnellement, je me souviens un peu de lui. Là. Il a gagné la Coupe Memorial avec les Cataractes, si je ne me trompe pas, puis il était laissé de côté. Là. C'était pas ouais. quelqu'un qui jouait tout le temps. Ouais. Qu'est-ce que tu avais vu en lui? Parce que c'est pas tout le monde qui aurait eu le flair de feu.
Ben, un, Hockey Sense. Puis ça, Hockey Sense, c'est dur à... Tu sais, on va être 10 personnes dans l'aréna, puis on regarde la game de 10 manières différentes, puis on voit 10 choses complètement différentes. Fait que ça, c'est dur à détecter. Entre guillemets, c'est un peu subtil, Hockey Sense. C'est de voir des actions, de voir son anticipation, comment il va se positionner face à la rondelle, etc. Deuxièmement, sa progression. Tu sais, moi, c'est quelque chose que je mets beaucoup, beaucoup aussi dans la force de dire, est-ce que le jeune s'améliore d'année en année ou à un moment donné, tu sens que ça stagne? Quand ça stagne à 16, 17, 18, ça peut commencer à être inquiétant. Puis dire, oh là, je pense pas qu'à 22, tu sais, ça peut, oui, continuer à évoluer, on s'entend. Mais Fred Gaudreau, il faut connaître l'histoire, que c'est un joueur qui a été blessé gravement à 16 ans, 17 ans, tourné jouer au Midget 3. Donc, tu sais, à son année de repêchage, entre guillemets, NHL, Fred Gaudreau jouait au Midget 3. Fait que, ça vous donne une idée comment il était loin, mais pas à peu près là, de la NHL. Là, tu sais, donc, là, tu vois qu'il arrive à 18, tu vois sa progression tranquillement, puis tu vois qu'à 20 ans, dans des rôles offensifs, tu voyais dans sa manière de jouer qu'il y avait des upside en termes de comment il bougeait, comment il manœuvrait avec la rondelle, comment il se positionnait, comment que sa mécanique de patin était toujours de mieux en mieux. Puis là, après ça, c'est le travail, tout ce qui est le travail autour du joueur. Donc, entraîneur, parler avec sa pension, parler avec son agent, parler avec ses anciens entraîneurs, des coéquipiers, puis là, pour savoir quel genre de jeune. Puis là, tu réalises que ce jeune-là, ben il est passionné, il est dédié, il veut vraiment trouver les moyens de s'améliorer pour faire un joueur de hockey, etc., etc. Fait que tu te dis, ben, tu sais, je pense que c'est un bel essai. T'sais, c'est un joueur que tu te dis, ben, peut-être qu'il pourrait nous apporter quelque chose de bien. Puis, tu sais, l'être humain est tout aussi important que le joueur. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Donc, Fred cadrerait parfaitement avec ces critères-là.
Je trouve ça intéressant, JB, parce que tu nous parles de l'environnement, ses entraîneurs, l'environnement dans lequel il était à Shawinigan et par la suite à Drummondville. Je suis curieux de t'entendre. Bon, toi, tu es basé à Trois-Rivières, si je ne me trompe pas. On a parlé de Mathieu Olivier, on a parlé de Frédéric Gaudreau, on a parlé de Samuel Girard, trois gars qui ont joué pour les Cataractes de Shawinigan. Shawinigan, c'est dans la cour de Trois-Rivières, si tu veux. Est-ce que c'est un avantage pour toi ou pour un recruteur qui est en Abitibi, par exemple, de voir les Huskies ou les Foreurs? Est-ce que c'est un avantage d'être plus près, voir plus de matchs, de plus connaître les entraîneurs, l'environnement, ou ça a moins de rapport?
Mais je pense que ça peut devenir un avantage dans le sens que tu deviens familier avec certains joueurs que tu vois peut-être plus fréquemment. Moi, aller à Shawinigan, c'est facile. Donc, des fois, un mercredi soir, Charlottetown est en ville, ben c'est facile d'y aller. Le vendredi, Cap-Breton vient en ville, ben je vais retourner voir Cap-Breton, parce qu'ils sont autour. Bon, je vais y aller quand même des Maritimes, on s'entend. Je vais plusieurs fois dans l'année, mais c'est sûr que quand ils sont autour, exemple à Shawinigan, ça va être facile d'aller voir. Donc, tu vois Shawinigan un peu plus fréquemment par défaut, c'est comme ça. La même chose, tu sais, je te donne un exemple que Drew Batterson, Drake Batterson, qui avait été repêché par Ottawa, qui joue au Cap-Breton en cinquième ronde. Tu sais, je peux pas dire que ma lecture de Drake Batterson à l'époque était aussi bonne que certains joueurs du Québec. Cap-Breton, je les vois, mais je veux dire, peut-être que si j'habite proche, je suis un recruteur des Maritimes, peut-être que j'ai une meilleure vision de ce qui se passe. Puis je sais que je connais bien le recruteur-chef des Sénateurs qui, lui, est basé dans les Maritimes. Donc, est-ce que ça a un impact? Peut-être pas, peut-être que oui. Mais tu sais, des fois, ton réseau est peut-être plus élargi. Donc, tu sais, à quelque part, je pense que le fait d'être proche d'une équipe, ou tu sais, moi, je suis au centre du Québec, donc je vois souvent des équipes du centre par défaut. Donc, des fois, est-ce que ça va faire que ton réseau est plus grand? Ben je pense que c'est la nature humaine. Tu sais, donc, ça peut se faire facilement. Mais je peux te dire une chose, Sam Girard, s'il avait joué à Moncton ou à Rimouski, je veux dire, on l'aurait eu quand même à la même place sur notre liste, je peux te le garantir. Mm-hmm. Puis Mathieu Olivier, ben, la petite histoire de Mathieu aussi, il faut comprendre que moi, quand j'ai travaillé 2 ans dans les Wildcats de Moncton, ben, Mathieu Olivier a été un choix des Wildcats à ma deuxième année, puis ça avait été un peu, on m'avait laissé entre guillemets choisir Mathieu Olivier en 8e ronde parce qu'on savait que je quittais après vers Nashville, donc on m'a dit, ben, prends-le ton joueur, là, dans le sens que tu nous achètes depuis le début de l'année, fait que prends-le. Moi, je le voulais depuis la 4e ronde, puis on me disait non, c'est trop tôt. Fait que finalement, on a vu la suite comment. Donc, tu sais, Mathieu, ça faisait plusieurs saisons, je l'avais vu jouer à 15 ans, je connaissais bien son père, donc il y avait un environnement autour aussi qui permettait de mieux connaître le joueur.
Messieurs, première des choses, je viens de trouver mon nouvel achat de casquette. Ce sera celle que JP porte. Elle est vraiment, hot. Je vais l'ajouter à ma collection. Et une autre chose que je veux revenir, JP, tu sais, tantôt, tu as parlé que les stats, c'est pas quelque chose que tu accordes beaucoup d'importance a priori. Mais en même temps, on t'a une ère où on est à la mode des statistiques avancées. Il y a beaucoup de DG même qui s'engagent des gens de statistiques avancées. Comment tu fais, toi, pour, naviguer à l'intérieur de cette, entre guillemets, mode-là? Est-ce que c'est quand même quelque chose que tu regardes ou toi, non, vraiment, tu te concentres ce qu'il y a sur la glace? En fait, comment tu fais pour gérer cette nouvelle tendance-là d'une certaine manière comme dépisteur?
Ben, tu sais, la réponse de politicien est facile de dire que tu les utilises puis bon, ça fait partie de ton évaluation. C'est un outil qui vient bonifier un peu ce que tu vois sur la glace. Ça, c'est la base. Faut juste comprendre que, tu sais, moi, quand je vais avoir un match junior, je suis pas une équipe. Je ne coach pas l'équipe. Donc, tu sais, j'ai pas à trouver des trios, des duos qui vont aller bien sur la glace ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ces stats-là aident beaucoup les entraîneurs, des fois, à dire, bon, ben quand Mikael Granlund est sur la glace en zone défensive, tant de fois de pourcent, ben réussi avec Matt Duchesne à sortir la rondelle. Mais quand c'est Luke Conin, la rondelle reste dans... Bon, tu comprends que ça, ils l'ont tout décortiqué. Donc, des fois, ça te permet de jumeler mieux tes trios, tes duos. Tu sais, comme recruteur, c'est certain qu'à un moment donné ou l'autre, tu t'assois puis tu prends le temps de regarder ce que... Tu sais, nous, on a des gens en agile, évidemment, qui font ça à temps plein. Donc, nous, ils nous fournissent des stats. Mais comme recruteur amateur, si je me présente un soir à, on a dit, Shawinigan, puis que Shawinigan joue contre Bécomo, ben Bécomo, je veux dire, c'est une équipe très, très jeune. Donc, est-ce que le joueur de 17 ans de Bécomo versus, exemple, un joueur de 17 ans de Shawinigan est dans les mêmes conditions, avec le même style de joueur, avec le même style d'équipe, avec le même style d'entraîneur, bon, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle de gars de 17 ans, avec peut-être qu'il joue avec beaucoup de 19 ans, donc ça aide sa production. À l'inverse, peut-être qu'il joue moins parce qu'il y a trop de vétérans. Donc, tu sais, il y a tellement de facteurs c'est chez les jeunes joueurs de cet âge-là et que des fois, je veux dire, il a joué un week-end contre deux équipes en reconstruction, le gars s'est lancé de l'enclave, sont très élevés par rapport à une fin de semaine d'après. Donc, tu sais, oui, ça fait partie de ce que je vais regarder, c'est certain. Si je prends un exemple d'un défenseur qui a 40 assists, puis je réalise qu'il a 36 secondary assists, parce que c'est juste des D2D, puis finalement, c'est l'autre dev qui prend des plombs nets, puis un rebound, puis l'autre score, mais que finalement, tout ce qu'il fait, lui, c'est un D2D en latéral, puis qu'il y en a 36 dans l'année sur 40, mais je réalise que peut-être sa créativité est peut-être pas autant que l'autre dev qui a 28 assists, mais qu'il a 25 primary assists, parce que c'est vraiment des passes décisives. Donc ça, je veux dire, c'est certain qu'on va analyser ça, on va regarder le tout. Ça reste que mes yeux restent mon meilleur outil, là, quand même, pour faire mon travail.
Hey, Jean-Philippe, on est quand même tous des maniaques de repêchage, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur comment ça se passe de votre point de vue à vous. Je veux te ramener l'année dernière, les Prédateurs, vous vous êtes avancés pour mettre la main sur Zachary Lheureux. Peux-tu nous raconter un peu comment ça s'est passé, tout ça, la situation?
Ben moi, je me suis levé, j'ai donné un coup sur la table dans le même, j'ai dit au gars, j'ai dans le drafté.
Il va être content d'entendre ça.
Ah, c'est ça. Non, mais comment ça s'est passé? Tu sais, je veux dire, sans tomber dans trop les détails, c'est certain que nous, dans la liste qu'on avait, Zachary avait une belle position qu'on était confortable. Donc, quand le repêchage avance, à un moment donné, on a vu que Zachary était toujours disponible. On voyait les équipes bon, sélectionner d'autres joueurs. Puis là, je veux dire, c'est un consensus. Tu sais, je veux dire, le recruteur-chef, lui... Ce qui était différent cette année, puis qui était vraiment bien en 2021, contrairement à ce qui s'en vient en... M'entendez-vous encore? Entendez-vous le bruit en haut?
On t'entend un peu.
C'est parce que, écoutez, je suis désolé, gars, ma maison est en réno complet en ce moment. C'est
bien correct.
Là, je sais pas s'il va continuer ou pas, il m'a changé de spot, je suis désolé. J'essaie d'aller me cacher. Là. Vraiment, il va falloir que je change, parce que ça va être tough. Je suis vraiment désolé pour vos auditeurs. Là.
Ah, il n'y a pas de stress, c'est les joies du direct.
Ouais, c'est ça. Là. C'est parce que si vous voyez mon chantier chez nous. Hein, en tout cas. Fait qu'en résumé, les gars, ce que je disais, je sais, c'est n'importe quoi, mais gars, on va faire avec. Ce que je vous disais, c'est qu'en résumé, nous, on est arrivé à un rang où est-ce que Zachary, on était confortable. D'aller le prendre. Puis à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que Le recruteur-chef a demandé à David Paul de voir s'il était capable d'aller chercher peut-être un autre choix au repêchage, tu sais, en première ronde. Donc là, tu sais, ce qui est différent, ce que j'essayais de vous dire tantôt, c'est qu'on savait tout ce qui se passait, nous, comme les recruteurs, dans le sens que quand on va être au repêchage à Montréal, on n'entend pas, tu sais, je veux dire, on est autour de la table, mais tu as le recruteur chef, le DG, l'assistant DG. Donc, ces gens-là sont autour du téléphone, ils se parlent. Bon, tu sais, nous, comme recruteurs, on n'a pas le pouvoir d'aller voir le GM, dire ouais, là, en deuxième ronde, moi, j'ai un gars que j'aime, puis tu allais faire un trade, tu sais, le DG, vas-y, non, c'est le recruteur chef qui, bon, on se comprend, c'est la hiérarchie. Mais là, ce qui était le fun, c'est qu'on était tous positionnés pour être capables de savoir ce qui se passait, parce que, je veux dire, c'était tranquille, il n'y avait pas de bruit, on était dans. À Nashville, dans les bureaux en haut, dans notre belle salle de réunion. Fait que c'est, je veux dire, le repêchage coulait, nous on discutait, c'était totalement différent. Donc, là, David Boyle s'est mis à appeler toutes les équipes une après l'autre. Là, 23e rang, 24e, 25, 26, une après l'autre. Il offrait des choix, il offrait des différentes choses. Puis à un moment donné, ben, les Hurricanes, eux autres, avaient une stratégie qui était de maximiser. Si vous avez vu, ils ont peut-être repêché 15 joueurs, on est passé le Hurricane. Donc, le Hurricane, eux, avait une stratégie d'aller chercher le maximum de choix. Donc, il était prêt à reculer à quasiment toutes les rondes pour aller additionner des choix. Donc, nous, on avait deux choix de deuxième ronde. Donc, ils ont tout simplement accepté. Puis, tu sais, je te dirais qu'aussi, je voyais les équipes arriver, tu sais, à 28, 29, 30. Puis, je voyais des équipes que je me disais, c'est certain qu'ils ne passeront pas ce rang-là. J'étais une parmi ceux-là, sans la nommer, que j'étais convaincu qu'ils prenaient Zachary Lheureux. Donc, ça aussi, on l'avait mentionné, de dire, je suis convaincu que cette équipe-là va le prendre. Donc, si on peut faire de quoi avant qu'eux repêchent, essayons. Puis ça a fonctionné.
Par rapport à Zachary Lheureux, JP, la principale critique qu'on faisait à son endroit l'an dernier, c'était l'attitude, le fait qu'il était très indiscipliné. C'est quand même battu souvent, eu des matchs de suspension. Vous, visiblement, ça ne vous a pas vraiment fait peur. Je pense que même ça vous avait peut-être même plus. Comment tu le vois, cet aspect-là, chez Zachary Lheureux?
Bon, tu sais, je le vois comme la maturité. Tu sais, je peux dire que cette année aussi, il y a eu un gros lot d'adversité. Il s'est fait suspendre aussi deux fois. Il y a eu une séquence de 8-9 matchs. Il y avait de la misère à produire. Son jeu était correct. Il y a eu à travers ça, bon, la GMQ est arrêtée. Là, à la fin de l'année, il s'est blessé. Quand même une blessure... qui est pas grave, là, mais qui l'a fait rater toute la fin de la saison à travers ça. C'est une année d'adversité, mais tu sais, quand tu repêches un joueur comme lui, je veux dire, tu sais exactement à quoi t'attendre. Tu as fait tes devoirs, tu sais exactement pourquoi chaque fois il a été suspendu. Tu as parlé à son entraîneur, tu as parlé à son ancien entraîneur, tu as parlé à son entraîneur midget, tu as parlé à son entraîneur bantam, tu as parlé à son strength coach, tu as parlé à son agent, tu as parlé aux gens autour de sa. T'as parlé là, à l'entourage au complet. Donc, tu sais exactement à quoi t'attendre. Moi, je connaissais même des entraîneurs très proches qui l'ont eu au jeu du Canada quand l'équipe Québec avait gagné. Puis qui avait été dominant lors des quarts de finale, demi-finale, finale. Donc, tu connais tout l'ensemble de l'historique. Après ça, ben, je veux dire, quand tu le repêches, tu sais exactement à quoi tu t'attends. Puis l'organisation est prête à vivre. Puis. Il faut juste comprendre, les gars, que quand tu repêches un joueur, nous, la job est faite comme recruteur. Tu sais, entre guillemets, c'est un peu un... Je travaillais dans le domaine avant des études, puis on appelle ça un tunnel de conversion. Là, je saute du coq à l'âne, mais ce que je veux dire, le tunnel de conversion, c'est que tu repêches un joueur. Moi, ma job, après, entre guillemets, est faite. Le Zach, il passe dans les mains des gars du développement pour ses années juniors. Après développement, ben là, il va tomber dans les mains des gens de la Ligue américaine. Donc, tu sais, le joueur va passer dans différentes étapes. Puis là, c'est Sébastien Bordeleau qui s'en occupe. Puis, je veux dire, Sébastien fait un job extraordinaire avec lui. Sébastien se reconnaît même un peu en Zach dans sa manière de jouer. Donc, tu sais, c'est le fit est parfait. Puis après ça, c'est d'aller chercher cette maturité-là, c'est de travailler avec lui. Puis, je veux dire, c'est des jeunes de 17-18. Puis des fois, on oublie vraiment que c'est ça. On vieillit tout le temps, mais les joueurs ont tout le temps le même âge. Hein, fait que faut pas juste garder ce mindset-là de dire que ce joueur-là a 18 ans actuellement. Bon, donc, ils sont très jeunes. On a des attentes exceptionnelles de dire le gars du développement est autour, le recruteur il est là, l'agent il est là, le staff NHL il est là, le coach junior il exige, le DG il est aussi en vue. Tu sais, comme tout le monde est autour. Fait que, je veux dire, Zach, il est en de bonnes mains. Mais il y a du travail à faire, comme je te dirais, les 200 et autres plus joueurs qui sont faits repêcher l'année passée.
Ouais, puis tu sais, on a souvent les qualités de nos défauts aussi. Je veux dire, tu sais, Zach, c'est un gars intense, c'est un gars qui a de la grit, tu sais, ça vient aussi un peu avec, tu sais, garde Bob Marchand dans la Ligue nationale, il a été suspendu plus souvent qu'à son tour, puis il n'y a pas une équipe dans la Ligue nationale qui ne prendrait pas Brad Marchand dans son club, là, tu sais.
Exact.
Sans que je compare les deux, mais tu sais, ça vient un peu avec son style de jeu aussi un peu. Là,
puis il faut dire aussi que Zach n'a aucun entre guillemets, break. Il n'y a pas de break dans les Maritimes, surtout avec les arbitres. J'ai vu beaucoup de matchs cette année, puis honnêtement, il n'y a pas de break. Son nom, il est fait. Fait que dès qu'il y a un petit quelque chose, c'est souvent automatique. yeah. Tu sais, c'est un 2, c'est automatique. Et je l'ai vu cette année, pogné 10 minutes. C'est comme ça. Puis tu viens avec, puis après ça, ben, c'est à lui à gérer ça.
Jean-Philippe, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment intéressant. Je suis convaincu que les gens à la maison ont apprécié l'entretien que tu nous as accordé. Et bonne rénovation pour la suite.
C'est pas moi qui ai fait, sinon ça prendrait 2-3 ans encore.
Merci, bon, Jean-Philippe.
Merci beaucoup. OK, bye.
Bye-bye.
Bon, heureusement là, que les prédateurs ne sont pas en construction, là, parce que là, il ne faudrait pas qu'on donne ça aux mains là, de Jean-Philippe. Non, sans blague, messieurs, c'était hyper intéressant. Je suis convaincu.
Ouais, tellement
que,
bon.
Honnêtement, on en a appris plus que le client demande. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui aimeraient ça le voir débarquer avec le Canadien de Montréal. Il l'a déjà dit par le passé, c'est pas quelque chose qui l'intéressait, qu'il était très bien à Nashville. Mais encore une fois, je le remercie parce que c'est une facette du jeu qu'on n'a pas souvent l'occasion de récolter des données, le repêchage, de voir comment ça se passe de l'autre côté de la médaille. Puis là, on a une meilleure observation à ce niveau-là.
Ouais, puis c'est pas tous les dépisteurs qui sont à l'aise de venir parler dans les médias parce que parfois ça peut être touché aussi. Tu veux pas révéler non plus des secrets d'équipe, tu veux pas, ça peut être compliqué, tu veux pas te faire mettre sur le spot non plus. Puis JP est tellement habile en communication. D'ailleurs, si je me trompe pas, il y a un background en communication en plus d'avoir un background d'hockey. Puis il est toujours incroyable. Puis encore une fois, il a prouvé comment c'est un bon communicateur. Puis c'est visiblement aussi un bon dépisteur parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de succès là, avec les Prédateurs.
Tu sais, c'est un ancien Lucuteur. Quand t'as été à Lucuteur, le succès vient avec ça, tu sais.
Bon, exact. Et un ancien des Voltigeurs de Drummondville également.
Alex, on peut parler aussi des séries de la LHJMQ ensemble. Ça bat son plein. Surprise au premier tour, Rimouski qui a surpris Saint-John et là, qui tient tête au Rempart de Québec. Est-ce que tu l'avais vu venir, celle-là, Alex?
Non, vraiment pas. Puis, tu sais, je veux rien enlever à l'Océanique de Rimouski. Puis, tu sais, j'en ai parlé beaucoup avec Martin hors d'onde. Tu sais, on se parle beaucoup de hockey, moi, Martin, de la LHMQ hors d'onde. Puis, tu sais, il m'a posé la question, tu penses-tu que l'Océanique va sortir Saint-John? Tu sais, c'est une surprise, là, mais ça arrivera pas. Je pense pas. Parce que je me disais, Saint-John est trop fort sur papier. C'est l'équipe haute de la Coupe Memorial. Rimouski ont une équipe intéressante. Ils vont être intéressants dans les deux prochaines années. Je regardais leur défense puis ils ont une défense vraiment intéressante qui va venir dans les prochaines années. Mais tu sais, je pense qu'il faut donner le crédit à Serge Beausoleil. Il a fait le coup au Cataract de Shawinigan en série l'an passé. Il a fait le coup cette année aux Sea Dogs de Saint John. Honnêtement, c'est une très, très grosse surprise. Je n'aurais pas vu venir ça. Et je pense qu'il y a peu de monde qui aurait parié sur l'Océanique. Là, et crédit à eux. Ils sont encore dans la course. Ils ont battu les Remparts de Québec hier. Alors, eux sont en mission. Là. Vraiment, je pense qu'à partir de maintenant, c'est impossible de les prendre à la légère, l'Océanique de Rimouski.
Et puis ça a forcé Nathan Gauchet à y aller d'une déclaration quand même assez audacieuse hier là, de dire « Écoute, on s'est fait surprendre, ça n'arrivera pas une deuxième fois. » Ça, c'est insatisfaisant.
Ouais, d'ailleurs, ouais, mais ça démontre du leadership quand même de la part de Nathan Gauchet. J'aime ça, moi, de voir que « Hey, c'est pas vrai que ça va arriver. Je vais tout faire en sorte pour que ça n'arrivera plus. J'ai confiance en mes aptitudes et en celles de mes coéquipiers. » Moi, j'aime ça, un joueur qui… c'est pas de l'arrogance. C'est vraiment de la confiance pour dire « Hey, c'est terminé, il y a un gongon puis une de la série. »
D'ailleurs, Nathan Gauchet qui a gagné hier le trophée Mike Bossy. Je sais que Mike Bossy est une personne spéciale pour toi, Anthony. Les trois, on a travaillé avec, mais toi, tu étais peut-être de nous trois, celui qui était le plus proche de lui. Hier, Nathan Gauchet a reçu le premier honneur. C'est des mains de la famille, d'ailleurs, de Mike Bossy. Ben, je dis des mains. La famille, Tania Bossy avait fait un message pour Nathan Gauchet. Et puis, c'est un lien parfait parce que vous êtes le podcast La Relève et il s'inscrit d'abord comme le premier espoir, le meilleur espoir en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale d'hockey. C'est ce que cet honneur-là reconnaît. Puis, Nathan Gauchet, comme tu dis, il y a du leadership, il y a de la grit. Il coche beaucoup de cases, Nathan Gauchet. Puis, je pense que l'équipe qui va le repêcher va mettre la main sur un joueur assez complet puis qu'il y aura des chances très légitimes éventuellement de jouer dans la Ligue nationale d'hockey, je pense.
Ça ne veut pas toujours dire quelque chose, mais... il était en nomination avec Tristan Luneau et Maverick Lamoureux. On se questionne beaucoup à savoir c'est qui le meilleur espoir de la LHMQ. Il y en a qui préfèrent Luneau, il y en a qui préfèrent Lamoureux, il y en a qui préfèrent Noah Warren également. c'est une belle, pas une coïncidence, mais c'est une belle information à noter que finalement, c'est Gaucher qui a été choisi pour ce trophée-là. T'sais.
Non, exact. Mais pour en revenir aux séries, c'est ça. Il faudra prendre au sérieux l'Océanique de Rimouski. Sinon, honnêtement, en termes de première ronde, il n'y a pas eu.
Il y a quand même eu le gros clash entre Halifax et Bathurst. Il ne veut pas. Ça a pris toute une remontée du Titan pour se sortir de la tête de l'eau, orchestré entre autres là, par Riley Kidney, l'espoir des Canadiens de Montréal.
Ouais, un but en troisième prolongation. Ben, t'as raison, sauf qu'a priori, cette série-là, on la voyait, puis je me souviens de la conversation qu'on a eue les trois ensemble en ondes, on la voyait comme une série qui pouvait être potentiellement longue. C'est une des séries qui était compliquée. Elle, puis Drummondville et Blainville-Beaubriand, et les deux se sont rendus à la limite. Et c'est pas une surprise dans le sens que... Je vais expliquer ça comme ça. C'est une surprise dans le sens que Bathurst a dû faire preuve de caractère. Tu l'as même dit sur Twitter, ils ont dû revenir de l'arrière et gagner trois matchs de suite. Mais c'est pas une surprise parce qu'a priori, je pense que beaucoup d'observateurs allaient mettre Bathurst comme étant favori dans cette série-là. Bon, évidemment, quand Halifax prend les devants 2-0 dans un 3-5, tu donnes pas cher de la peau, là, tu te dis bon, ça va être compliqué de revenir dans cette série-là. Mais non, c'est pas une surprise au résultat final. Peut-être dans la façon que ça s'est déroulé, c'était une surprise. Bathurst, c'est une très bonne équipe, un très bon gardien. Puis, tu sais, c'est pas une équipe qu'on a parlé beaucoup parce qu'ils sont dans les Maritimes, mais ils ont beaucoup de punch à l'attaque, cette équipe-là.
Et tu sais, je pense que eux, ce qui n'a pas été facile du côté du Titan, là, je viens de ressortir les statistiques. Là. À partir du 16 avril, là, ils ont eu une séquence de 3 défaites en 12 matchs. Après les rumeurs de déménagement, comme quoi l'équipe pourrait partir de Bathurst, etc. Puis, veut pas, c'est certain que c'est de l'incertitude. Ça peut jouer dans la tête des joueurs ou des entraîneurs. Est-ce que ça a pu influencer le début des séries? Peut-être pas, peut-être. Mais en tout cas, là, je pense que là, soudainement, on s'est mis à gagner des matchs. On a retrouvé la concentration. Et là, je sais que ça va peut-être un peu moins bien contre les Islanders, mais Charlottetown a toute une équipe, la meilleure défense de la Ligue. Moi, je les vois aller très loin, là. Mais tout ça pour dire que peut-être que ça a pu changer le mal de place un petit peu de commencer à gagner des matchs de hockey et de rebondir, puis de retrouver la confiance nécessaire pour battre les Moussettes.
Ouais, je sais pas. Je sais qu'il y en a qui ont fait cette comparaison-là puis qui ont effectivement fait le lien avec la nouvelle. Ben franchement, là, je dis pas que c'est impossible là, que ça ait affecté, ça se peut. Mais pour connaître la mentalité de la plupart des athlètes, ce qui se passe à la glace, ça se passe à la glace. Puis je serais curieux que ça les dérange à ce point-là pour. Tu sais, particulièrement rendu en séries éliminatoires, là, t'es là, tu veux gagner. Puis ce qui se passera l'année prochaine, on s'en fout. Là. Les gars, il y a bien des gars qui savent peut-être même pas quelle équipe ils jouent deux jours après là, parce qu'ils se concentrent sur le match à suivre. Fait que pour être bien honnête, je comprends qu'il y en a qui fassent ce lien-là. Personnellement, je serais surpris que ça ait un impact significatif sur le résultat des séries, de la série ou d'Acadie Batters, pour être très transparent.
Alex, je te laisse aller, le temps file, mon ami. Merci d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à parler des séries éliminatoires.
Yes, c'est méchant bon show, honnêtement. Puis tu sais, je prends deux secondes là, pour dire aux gens, si vous avez une chance, là, déplacez-vous. Je sais qu'il y a des séries de la Ligue nationale de hockey, mais le hockey junior, c'est un méchant bon show à bas prix. Là, en ce moment, il y a des séries pas bien loin, là, Québec, Sherbrooke, Blainville-Boisbriand, Shawinigan, Gatineau, c'est pas loin là, pour les gens qui vivent dans la région de Montréal. Là, déplacez-vous, allez voir ces matchs, allez voir l'avenir de demain. Point. Et puis, je pense que ça vaut la peine. C'est tellement un show qui est sous-estimé. Puis, pour vrai, je sais que je prêche pour ma paroisse, mais il suffit d'aller dans un aréna pour voir des prodiges de 16 à 20 ans. C'est assez phénoménal, le show qu'ils peuvent donner. Le rapport qualité-prix, spectacle-prix est excellent.
Hey, tu dis que c'est pas long, Alex, mais tu sauras. J'ai regardé nos statistiques, il n'y a pas long. On a des auditeurs en France et en Belgique. Alors, pour certaines personnes, là, c'est un peu plus loin que ça va pour aller voir
quoi?
Les matchs à la GMQ.
Je regarde les chiffres de notre chaîne YouTube et les trois premiers pays, ce sont Canada, États-Unis, évidemment. Russie vient très près, mais la Suisse est un pays qui regarde beaucoup notre chaîne. J'imagine que l'impact Théo Rochette doit avoir un certain impact, mais effectivement, on a des auditeurs des gens qui regardent nos matchs partout dans le monde. Et puis, je ne suis pas surpris que vous ayez des auditeurs de la France et de la Belgique.
Exact.
Ouais, des parties. Ouais, ouais. des partisans de Milo Rollins, là, probablement. Là,
ouais, ben, c'est ce que j'allais dire. Belges, c'est ce que j'allais dire, qu'ils ont une certaine origine belge. D'ailleurs, ils ne sont pas considérés comme des euros, là, par contre, les Rollins, mais effectivement, ils ont des origines belges. Les gars, vous êtes international, puis je ne suis pas surpris. Vous êtes excellents, vous êtes très bons. Pas surpris que vous soyez partout dans le monde.
Merci, Alex. Bon, allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.
Bye-bye.
Marty, avant qu'on poursuive, je veux juste prendre le temps de saluer nos amis de la page Facebook de la première ronde. La première ronde page Facebook qui ne traite pas seulement de hockey, qui traite de plusieurs sports de façon quotidienne. Vous pouvez vraiment vous informer grâce à la page Facebook de la première ronde. Marty, on parle de séries. On a parlé des séries du Rocket. On a parlé des séries Les Prédateurs qui se sont fait éliminer par l'Avalanche. On a parlé des séries de la LGMQ. Je vais te parler des séries de la OHL parce que je veux pas. Shane Wright, maintenant qu'on sait que le Canadien va repêcher au premier rang, on a ça la semaine dernière, immédiatement après notre podcast en soirée. Bien des gens ont tourné leurs yeux vers Kingston et là, malheureusement, ils sont éliminés. Je regarde ses statistiques, Shane Wright, même si JP l'a dit un peu plus tôt dans le podcast, les statistiques font pas foi de tout. 14 points en 11 rencontres. Est-ce que ça a été à la hauteur des attentes pour un potentiel premier choix comme Shane Wright?
Bah, c'est certain que si tu regardes les statistiques, non, maintenant. Puis c'est drôle parce que j'ai regardé le match, c'est le quatrième match que j'ai regardé. J'ai vu des commentaires sur Twitter, notamment d'un observateur très influent dans le monde du recrutement que je ne vais pas nommer, là, mais les gens le savent très bien de qui je vais parler. Tu sais, tu allais dire que Shane Wright avait été le pire joueur sur la patinoire. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais quand tu dis qu'un joueur a été le pire sur la patinoire au niveau junior, c'est horrible. Comme je suis meilleur que le pire joueur.
Ouais, mais c'est ridicule comme statement.
Non, je sais, mais. Supposons qu'avant de regarder ce match-là, c'est le seul écho que j'avais eu du match. Donc, je me dis, OK, on va surveiller Shane Wright. On va voir s'il est en effet le pire joueur sur la patinoire.
Et... Ouais, pas juste pour mettre les gens en contexte, tu ne l'as pas écouté en direct. Tu l'as écouté par la suite. Fait que c'est pour ça que tu avais eu la chance de voir le commentaire.
Oui, parce qu'on est au travail. Là, on est occupé justement à travailler davantage sur les matchs de la LNH. Et là, je me reprends tout de suite toujours un peu plus par la suite. Même si je peux voir des bribes ici et là, mais je veux toujours être plus concentré après le travail. Mais par rapport à Shane Wright, honnêtement, j'ai regardé le match puis moi, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on a pu dire pour juger qu'il avait été le pire joueur sur la patinoire. Oui, il a commis peut-être, il a tenté des passes qui ont été souvent interceptées, surtout en première période. Mais moi, j'ai trouvé qu'en deuxième ou en troisième période, il a effectué d'excellentes passes, des passes très difficiles. Il ne faut pas se faire de cachette. C'est Mathieu Paradis, je pense, qui en parlait dimanche. Shane Wright n'est pas spectaculaire. Sortez-vous ça de la tête. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire les faits saillants. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des feintes à l'emporte-pièce. Il n'est pas spectaculaire. Ça, c'est vrai. C'est une chose. Mais la force de Shane Wright, c'est son intelligence. Il se place bien. Il supporte ses défenseurs. Il a un bon coup de patin. Il est très, très bon en transition pour contre-attaquer. Il est toujours bien placé. Il supporte bien ses attaquants. Mais là où je m'en vais avec ça, désolé, vers la fin du match, là, Kingston avait besoin d'obtenir des buts pour rétrécir l'écart avec North Bay. Il a effectué des jeux très, très, très difficiles avec de la pression autour de lui, des passes rapides à la pointe. Et on l'a souvent dit, mais la défense de Kingston est très laborieuse. C'est pas une défense, c'est vraiment pas une bonne défense. Là, souvent, ce qui arrivait, c'est qu'un défenseur, le défenseur se retrouvait avec la rondelle et se faisait bloquer un lancer parce que ce sont des défenseurs qui manquent à l'occasion de créativité et d'imagination. Donc là, c'est normal que là, si Shane Wright fait tout le jeu et que finalement le tir est bloqué, ben là, ça, on ne le voit pas nécessairement dans les statistiques. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, Shane Wright. Est-ce que j'ai des inquiétudes? Oui, tu sais, je l'ai souvent dit, sans dire qu'il manque de constance, il est toujours très bon défensivement tous les matchs. Mais où je parle de constance, c'est davantage, par moment, il est ordinaire offensivement, on le voit moins. Et là, soudainement, il y a des flashs. Je vous le dis, là on dit que c'est pas un McKinnon ou un Panarin, mais par moment, il a l'air de ça. Ça ressemble à un joueur de premier plan qui peut devenir une super vedette. Mais il ne le fait pas avec constance. C'est ça que... C'est davantage ça, moi, que j'ai un peu un bémol par rapport à ses dernières prestations. Là. Mais pas de là à dire que ce n'est pas un espoir de premier plan et qu'il n'aura pas de carrière du tout. Non, il est très, 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 très bon. Je pense qu'il faut simplement en prendre et en laisser parce que les éléments autour de lui ne sont pas toujours les plus adéquats pour lui. Tu sais, lors de ses derniers matchs, on l'a mis sur un trio avec Paul Odwinski qui, lui, a été excellent. J'enlève rien à Paul Odwinski. Je l'adore. C'est quelqu'un que je prendrai au deuxième tour pour le prochain repêchage. Mais l'autre élément du trio, c'est Francesco Arcuri. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu jouer, mais c'est quelqu'un qui manque quand même pas mal d'efforts. Donc là, c'est un Shane Wright qui se démène comme un diable dans l'eau bénite et que là, lui, ne suit pas nécessairement le jeu, les jeux avortent parce que lui ne donne pas tout à fait l'effort. Ben, par moment, ça peut se répercuter sur Shane Wright, dans le fond. T'sais.
Ouais, deux petites choses. Un, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens sur Twitter qui ressentent le besoin de dénigrer les autres joueurs pour mettre de l'avant les joueurs qu'ils préfèrent. Évidemment, je fais référence à la personne que tu as mentionnée un peu plus tôt. Mais aussi, là, dimanche dernier, on a mis une citation de Simon Servant qui a dit sur le podcast qu'on a fait conjointement avec les gars du TSLH Podcast. Et là, les gens disaient « Ah, tu mets Frank Nazar deuxième, tu perds toute crédibilité. » C'est sa liste à lui. Puis quand Marty, tu vas dévoiler ta liste, ça va être ta liste à toi. C'est pas une prédiction. Je suis convaincu que Simon ne s'attend pas à ce que Frank Nazar va sortir deuxième au repêchage en juillet prochain. Mais lui, dans 5 ans, quand il va regarder ça, il va être confortable en ayant placé Simon à cet endroit-là. Puis là, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. C'est correct d'avoir des joueurs qu'on préfère, mais arrêtez d'attaquer les autres puis d'espérer de faire passer votre message. Si vous aimez mieux Slavkovski, il n'y a pas de problème. Mais descendez pas Shane Wright pour autant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Marty.
Mais surtout cette saison, c'est tellement un repêchage. Moi, personnellement, puis là, c'est normal que des gens comme Jean-Philippe Blon ne vont pas nécessairement se mouiller sur la profondeur, la qualité de la cuvée, mais moi, je trouve qu'elle est un peu faible. Mais là, ça fait en sorte que si les différents observateurs regardent les espoirs, ben là, moi, j'ai une préférence avec 2 ou 3 joueurs que je vais placer plus haut, puis ça va être la même chose pour les autres. Là, ça va faire en sorte qu'il y a 1 ou 2 joueurs, comme là, Simon Servant, lui, c'est Frank Nazer qui est deuxième. Ça semble bizarre, là, tu te dis, écoute, il a beaucoup trop haut, qu'est-ce qui se passe avec ça? Dans la plupart des listes, il est 10e. Lui, c'est Frank Nazer. Je vais parler pour moi, j'ai mis à jour ma liste dimanche.
Je peux-tu essayer de deviner?
On va quand même garder le suspense pour plus tard. On veut quand même présenter notre top 64.
Ah là. Oui, t'as raison.
Mais j'ai des gars dans mon top 10 que j'ai fait. Écoute, j'en reviens pas d'avoir ces gars-là top 10. C'est des gars. Il y a un gars, entre autres, là-dedans. Là, je l'avais 28e avant de changer ma liste. Puis là, soudainement, parce qu'il m'a plu sur certains détails, il est vraiment, vraiment rendu haut. Fait que moi-même, j'ai 2 ou 3 joueurs. Peut-être les gens vont faire des sauts, vont faire écoute, Martin, ça a vraiment pas de sens de placer un joueur aussi haut. Dans d'autres listes, j'ai vu Brad Lambert 2e. Il dégringole dans les listes. Lui, il est 2e encore dans sa liste. Gleb Trikozov, je l'ai vu 4e dans une autre liste. Puis je pourrais continuer comme ça, comme ça. Il n'y a tellement pas de profondeur que là, certains vont avoir des chouchous et là, vont les monter très haut parce qu'on a du mal à voir le potentiel élite. T'as Shane Wright, t'as Logan Cooley, t'as Juraj Slafkovský, t'as un Simon Nemec. Là, par la suite, tout est possible, tu sais. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais.
Exact. Et ça sera intéressant à suivre. Donc, c'est pas un rappel à l'ordre, mais juste les gens, là, tu sais, respirer par le nez. Je sais pas si c'est parce que Montréal draft premier que là, le monde vire un peu fou sur Twitter. C'est clair qu'il y a un engouement plus grand pour les espoirs cette année que les années précédentes en raison de ça, mais restons dans le calme et dans la gentillesse. Marty, j'avais une petite question sur Shane Wright. Là, on a passé un peu vite. Là. Mais tu m'as parlé de constance dans son cas. Puis le Canadien de Montréal, par le passé, sans dire que le recrutement faisait défaut, le développement aussi faisait défaut. Est-ce que tu penses, as-tu confiance au développement des Canadiens de Montréal pour être capable de... Écoute, Shane, tu joues 40 bonnes minutes, t'en joues 20 moins bonnes. Es-tu capable d'en jouer 60 bonnes? Penses-tu que le développement de l'organisation est capable vraiment d'aller dans ce sens-là avec Shane Wright pour en faire un joueur complet sur 60 minutes?
La réponse est plate à dire, mais je ne le sais pas. Pour la simple et bonne raison que Ken Hughes est débarqué récemment. Donc là, c'est un nouveau personnel. Il a quand même embauché un entraîneur, je pense que c'est Adam Nicholas, qui est l'entraîneur du développement individuel. Il a dit qu'il voulait mettre beaucoup plus d'emphase sur le développement, engager beaucoup plus de gens pour beaucoup mieux encadrer les jeunes. Tu sais, on parle à beaucoup d'espoir. Là. Autant tu as des organisations qui ont... Justement, je ne sais pas si tu te souviens, je vais prendre un exemple comme ça, là, mais Zachary Bolduc, lorsqu'il nous a parlé des Blues de Saint-Louis, c'est un suivi chaque semaine, on lui a fait un plan de nutrition, on était inquiet sur son manque d'énergie, on lui a vraiment fait un gros, gros, gros plan de nutrition, on lui a dit « mange beaucoup plus de repas », puis là, ben, on l'a vu, là, Zachary Bolduc est vraiment, vraiment dominant avec les Remparts de Québec depuis qu'il fait ça. Autant, il y a d'autres organisations, et je pense que les Canadiens, c'est sans lancer de pierre, mais j'ai l'impression que c'était peut-être un peu ça. C'était peut-être un petit peu moins sérieux que d'autres organisations à ce niveau-là. Là, c'est une nouvelle garde. Ils vont embaucher du monde à ce niveau-là. Donc, puis il y a une partie qui revient aux joueurs également. Moi, j'ai le goût de répondre que ça va bien aller parce que Shane Wright, c'est un joueur franchement intelligent. Ça se voit sur la patinoire. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui a une bonne tête sur les épaules, qui est mature. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va prendre tous les petits conseils qu'on lui donne, va être intelligent pour adapter les jeux. Puis tu sais, il y a une information, je pense que c'est Pascal Lapointe qui en parlait dimanche. Tu sais, il disait, Shane Wright l'a dit lui-même, il dit « Je dose mon énergie sur la patinoire pour être certain de disputer 60 bonnes minutes. » Ça fait partie de l'évaluation également. Est-ce qu'il... Dans le fond, est-ce qu'on... Tu sais, les flashs, est-ce que là, il se donne... Supposons le match que j'ai vu en personne. Moi, je t'avais dit, la troisième période, il a été absolument spectaculaire. Est-ce qu'il s'est dit, je me garde l'énergie pendant la troisième période, là, je donne tout? Ou à l'inverse, c'est une vraie inquiétude. Ça, personnellement, je vais parler pour moi, ben, ça fait partie de la discussion, ça fait partie de la... du questionnement. Est-ce que c'est légitime ou c'est pas légitime? Mais tout ça pour dire que je suis assez confiant. Je pense que le gars est assez intelligent. Je pense que ça peut l'aider, mais attendons de voir. C'est la première saison de l'ère Ken Hughes, donc on verra qu'est-ce qui va arriver.
Oui, puis mini parenthèse, là, tu parlais de nouvelle embauche au sein du Canadien de Montréal. Ils ont nommé Christopher Boucher à la tête du département des statistiques avancées, choses qui ont été un peu délaissées sous l'ère Marc Bergevin. Donc ça aussi, ça va être intéressant à voir les dividendes et on ne le verra pas nécessairement à court terme, mais au cours des prochaines années, comment est-ce que ça va tourner à ce niveau-là. Marty, c'est aussi le mondial de hockey qui est présentement en cours. Ben, tu l'as glissé un mot avec Jean-Philippe un peu plus tôt. Sans dire qu'il y a une tonne d'espoir, il y a quand même quelques joueurs qui retiennent notre attention, à commencer par Adam Sikora, parce qu'on ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'il participe à la classique. Et finalement, il a réussi à se tailler un poste. Il n'a pas nécessairement joué beaucoup, mais il a maximisé les minutes qu'il était sur la patinoire.
Écoute, je viens de retweeter un propos qui a été rapporté il y a environ une heure, puis ça va te démontrer qu'est-ce que je veux dire. Claude Julien s'est fait que c'est Claude Julien qui est l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne au mondial. Là, s'est fait parler des espoirs slovaques parce que le Canada évoluait contre la Slovaquie hier. Puis il a répondu, écoute, il n'y a pas simplement Slavkovski et Nemets qui sont bons, qui sont de très bons espoirs. Il y a Adam Sikora également. Ça, ça en dit long. Je sais qu'on peut avoir toutes les sortes de critiques à l'endroit de Claude Julien. Là. Moi-même, c'était pas mon préféré comme entraîneur-chef avec les Canadiens. Mais force est d'admettre qu'il y a de l'expérience en tabarouette. Et s'il est à l'aise de dire ça d'un Adam Sikora, c'est qu'il a été impressionnant. Et là, c'est ça. Il a simplement disputé le match contre le Canada, a été laissé de côté lors des autres matchs pour les Slovaques. Mais il a été franchement renversant. Écoute, J'en avais déjà fait allusion lorsqu'on avait fait notre tour du monde sur la Slovaquie. Je t'avais dit, il n'est pas intimidé par les autres joueurs. C'est un joueur de 17 ans, puis il se chamaille avec des joueurs de 25, 26, 27 ans, puis il veut les renverser, il veut leur faire mal. T'sais. Et là, on l'a vu, mais contre des joueurs de la LNH. J'ai une séquence en tête, là, il est dans le coin, puis on s'entend, il est beaucoup moins fort physiquement que Matt Barzal. Mais il est en train de brasser Matt Barzal. Puis écoute, Matt Barzal en a plein les bras. Il doit vraiment, vraiment se tenir sur ses aguets. Puis il y a une autre séquence à un moment donné. Il a fait perdre les pédales à un ou deux joueurs canadiens. Et ça, ce sont des joueurs de la LNH. Écoute, il y a des joueurs de talent là-dedans. Là. Pierre-Luc Dubois est là. J'ai parlé de Matthew Barzal. T'as Thomas Chabot qui est là.
Josh Anderson.
C'est une équipe remplie de joueurs de la LNH. C'est impressionnant de le voir faire ça. Puis il a été impliqué tout le long du match. Je l'ai vu tenter de bloquer des lancers 3, 4, 5 fois. Impliqué dans les coins, en échec avant, n'arrêtait jamais. Puis même, je te dirais, de temps à autre, il a créé quelques occasions. Des jeux tout simplement simples. Remettait simplement au défenseur, faisait circuler la rondelle. Mais c'est très, très, très bien. Ça, c'est un style professionnel. Moi, je vous le dis... retenez ce nom-là, Adam Sikora, c'est impressionnant et je l'avais dit justement il y a quelques mois. Ce qui est intéressant dans son cas, puis là, c'est un développement sur le tard, est-ce que ça peut s'expliquer? C'est quelqu'un qui est né en septembre 2004. C'est l'un des plus jeunes joueurs de ce repêchage-là. Donc, est-ce que c'est normal qu'il y ait une progression vertigineuse et là, de se dire, écoute, ça va s'arrêter où tout ça? Là? Je vous le dis, notez ce gars-là parce que je pense qu'il y a des recruteurs de la LNH qui prennent des notes en ce moment. Puis Adam Sikora sort de l'ombre, tranquillement, pas vite. Là.
Marty, je veux saluer au passage Seb Gagné, là, qui tripe bien raide sur Adam Sikora. Il en parle quand même assez régulièrement. Sur Twitter, tu nous as parlé de Sikora pour son ardeur au travail, fait bien les petites choses, bloque des lancers, joue de la bonne façon. Parle-moi donc un peu de l'aspect offensif, qu'est-ce qu'il peut apporter sur la patinoire pour mettre des points sur le tableau.
Moi, de la façon que je le vois, et là, je bois ma boule de cristal, supposons qu'il débarque dans la LNH dans 4 ou 5 ans, parce que je pense que c'est un joueur qui va appartenir à la LNH. Là. Je pense que c'est quelqu'un qui va apporter de l'attaque par son énergie. Il va se diriger au filet, va prendre des retours de lancer, va déranger. C'est vraiment de cette façon-là. C'est quelqu'un qui n'arrête jamais. Tu sais, un lapin énergiseur, si tu veux. Là. Je pense que c'est justement Seb Gagné qui reprenait cette expression-là hier. Il n'arrêtera jamais. De temps à autre, justement, il va faire le jeu simple. Il est capable quand même de repérer s'il voit un défenseur libre, il va lui remettre puis il va faire circuler la rondelle. Mais de là à dire que c'est quelqu'un qui va être un talent top 5, va devenir une super vedette dans la LNH, c'est pas ça non plus. Là. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de créativité. C'est pas le joueur qui a les mains pour se signaler, créer des jeux constamment. Je pense que ça peut devenir... Moi, je pense minimum troisième trio, là, parce qu'il est tellement énergique. Tu le mets sur un trio comme ça, à pratiquer de l'échec avant et à être très rapide, ça va bien se dérouler. Je suis moins certain pour un top 6, parce que justement, je pense qu'il manque peut-être un peu d'attaque. S'il y a des blessures, là, on peut le revoir sur un top 6, puis il peut être très, 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 très bon. Mais je pense qu'il va peut-être manquer un petit peu de points, là, mais ça mérite quand même de le voir... De le voir, je te dirais, là, je vais te donner un aperçu, mais moi, dans mes listes, je l'ai maintenant dans entre 33 et 64. Donc, il est dans mon deuxième tour et je m'attends à ce que la majorité des gens qui suivent un peu les espoirs aient cette réflexion-là. Maintenant, c'est de voir est-ce que tu l'as plus près de 33 ou tu l'as plus près de 64. Ça, c'est la question. Tu sais.
On aura la réponse d'ici quelques semaines. Je vous rappelle que Marky va commencer à dévoiler son top 64 à la fin du mois de mai. Marky, un petit mot sur ces deux coéquipiers. On en a déjà parlé il y a deux jours quand on a fait le tour du mondial avec les gars du TSLH, mais quand même, ça reste des espoirs de premier plan. Comment tu évalues Simone Nemets et Juraj Slafkovský dans ce tournoi-là?
Dans le cas de Juraj Slafkovský, je ne suis pas tellement surpris. On l'a vu quand même lors des Jeux olympiques, avait très bien fait, a été nommé joueur par excellence. Je pense qu'il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Je pense que lui, l'information supplémentaire que tu peux aller chercher, c'est qu'aux Jeux olympiques, les gars de la LNH n'étaient pas là. Le dernier match, c'était contre le Canada et on l'a constamment vu, constamment décocher des lancers au filet. Pour sa taille, il a d'excellentes mains, il est très, très, très fluide. Là. Il est capable de manœuvrer en zone quand même assez restreinte. On l'a vu souvent. Maintenant, je te dirais, c'est peut-être pour ça que je il y a des gens qui le voient premier. Là. Moi, je ne l'ai pas premier dans mes listes. Là. Je pense que Shane Wright est meilleur que lui. Mais c'est pour cette raison-là, c'est manque peut-être un petit peu de créativité, beaucoup d'élancés directs. On lance. C'est bien, c'est très, très bien. Ça va être un excellent joueur quand même. Mais de temps à autre, là, c'était quand même beaucoup de lancers dans le plastron du gardien de but. T'sais. Il y a un excellent lancé, mais souvent, le gardien Logan Thompson, là, le gardien des Golden Knights de Vegas, ben, faisait quand même les arrêts facilement. Mais pour le reste, les détails, là, l'implication physique, les mains. Honnêtement, tu aurais changé son nom, tu m'aurais dit qu'il n'est pas admissible au repêchage 2022. J'aurais pu te dire que c'est un joueur de la LNH. Ça, c'est un indice qui est assez probant, là, s'il est capable de se démarquer contre des Thomas Chabot, des Matthew Barzal ou des Pierre-Luc Dubois, bien, forcé d'admettre qu'il est vraiment, vraiment pas loin de la LNH. Tu sais.
Oui, ça, c'est un bon indice. Puis on l'avait vu avec Moritz Seider par le passé. Des joueurs qui dominent dans ce tournoi-là contre des hommes, contre des vétérans aguerris, ça en dit beaucoup. Ça aurait été le fun quand même que Shane Wright rejoigne l'équipe canadienne au mondial, mais bon, là, peut-être une question de timing, là, ça n'a pas fonctionné.
Ouais, mais c'est le calibre de l'équipe aussi. Je viens de te parler de l'équipe canadienne qui ont tous des joueurs de la LNH. La Slovaquie, c'est. Tu sais, Marco Kasper est là avec l'Autriche. Il est bon, non, Marco Kasper, mais il joue avec l'Autriche aussi. Si Shane Wright était autrichien, il serait là, je te confirme.
Ah, ah oui, ça, c'est sûr. D'ailleurs, parle-moi donc de Marco Kasper. Il y avait un affrontement ce matin avec David Jiříček. Match quand même assez serré. Les deux, ça a peut-être été un peu plus difficile de s'illustrer.
Ouais, ben là, honnêtement, comme on préparait le podcast, on préparait cet épisode-là, j'ai pas regardé la troisième période, mais j'ai vu les deux premières. Il a été assez invisible, mais tu sais, c'est un match qui était très, très, très serré au niveau défensif. Il n'y a pas eu beaucoup de lancers au filet lors des deux premières périodes, donc c'est pas inquiétant de voir qu'il n'a pas nécessairement créé beaucoup de choses au niveau offensif. Là. Il n'a pas énormément touché à la rondelle. Là. Souvent, les Autrichiens avaient beaucoup de difficultés à s'installer en fond de territoire, puis là, ben, c'est là qu'on a peut-être un peu moins vu. Mais au niveau des détails, il n'y avait pas de problème. Au niveau défensif, il joue bien, se place bien, positionne avec un bon bâton également, bonne pression, travaille bien. T'sais, il y a tellement un beau coup de patin très fluide, il est très, 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 très rapide. Ça, c'est vraiment plaisant. Mais tu sais, avec les autres matchs qu'on a pu voir, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'il y a tellement une grosse ardeur au travail. Et là, il commence à montrer de l'attaque, je reviens à ça, mais contre des joueurs de la LNH, contre des gars qui connaissent le tabac. Ça, c'est intéressant. Et avec toutes les autres qualités qu'il a, là, c'est un travaillant, il comprend super bien le jeu. Là. Il est capable parfois d'anticiper les décisions 2 secondes d'avance et ça lui permet d'intercepter une rondelle plutôt que le jeu progresse du côté de l'adversaire. Encore là, lui, dans son cas, de voir qu'il se signale contre des hommes. Et honnêtement, il est sur le premier trio de l'Autriche. Là. Ça, c'est impressionnant aussi. Même si c'est une nation peut-être un peu plus faible, il est capable de soutenir de l'attaque et tout simplement d'être de calibre avec ses coéquipiers. On en parlait dimanche avec Pascal Lapointe. Pascal l'aime beaucoup aussi. C'est pour ces raisons-là qu'on l'aime beaucoup. T'sais.
Exact. Puis du côté de Jiříček, lui, on l'avait dit aussi dimanche, on se répète un peu, mais c'est parce que veux, veux pas, on a fait un podcast de 2 jours. Performance parfois en dents de scie. Comment ça s'est passé ce matin?
Ben là, encore là, comme je te dis, je dois revoir la troisième période, puis même la prolongation, et là, ça s'est terminé en tir de barrage, donc on verra bien. Mais dans le cas de Jiříček, je trouve qu'il y a eu un début de match peut-être difficile, même au niveau offensif, là. Je le vante souvent, je pense qu'il y a une très, très, très bonne première passe au niveau des défenseurs. C'est lui qui a la meilleure dans ce repêchage-là. Mais tu vois, c'était difficile parfois en relance. Il quand même fait couper beaucoup. Quelques revirements, ça faisait en sorte que l'Autriche demeurait dans le territoire. Mais ça s'est replacé par la suite. Là, on l'a quand même vu manœuvrer un peu la rondelle. Puis en défense, ben, c'est un peu la même chose. Là. Par moment, lorsque ça commence à tourner, il y a un peu de problème à suivre son homme, etc., t'sais. Sur le plan physique, il n'y avait pas de problème là, d'arriver dans les coins, il était quand même à l'aise. Moi, c'est l'information que je prends avec David Jiříček. Le côté défensif, oui, c'est inquiétant, c'est peut-être pour ça que je l'aime moins qu'un Emmett. Mais simplement sur le côté physique, là, d'arriver contre des hommes, justement, et d'être parfaitement à l'aise, d'être capable de gagner des batailles, de s'en sortir facilement, ben moi, ça me dit, écoute, le gars est peut-être pas si loin que ça de gravir des échelons, ça peut être Ligue américaine, mais peut-être même LNH, c'est que je me dis, sur cet aspect-là, du moins, parce que je pense que c'est l'aspect le plus difficile à obtenir dans un calibre de jeu comme ça pour un jeune, lui, s'il est déjà rendu là, ben moi, je pense que c'est intéressant. En tout cas, c'est rassurant, si tu veux, pour le futur, parce que sur le plan physique, il est déjà sensiblement à l'aise. T'sais.
Marty, évidemment, on suit avec grande attention les espoirs du Canadien de Montréal dans le tournoi. On s'attendait à voir Jordan Harris, finalement. Il n'a pas été retenu par l'équipe américaine. Sean Farrell, lui, par contre, a fait l'équipe. Bon, là, ça revient un peu à la même chose que le Canada. Là. Les Américains ont quand même une équipe bien bâtie. Sean Farrell a peut-être du temps de jeu un peu plus limité. Comment est-ce que tu évolues le fait qu'il n'a seulement qu'un petit point en 3 rencontres depuis le début du tournoi? Es-tu quand même satisfait de la prestation qu'il donne sur la patinoire?
Mais lui, ce qui est intéressant dans son cas, j'ai les temps de jeu ici, là, son temps de jeu a augmenté. Et pas contre des petites équipes. Là. Son premier match, c'était contre la Lettonie. Par la suite, a affronté l'Autriche. Donc ça, c'est des nations peut-être un peu moins fortes. Mais là, soudainement, affronte la Finlande, puis finalement, s'en est tiré, là, du moins avec les statistiques que j'ai ici. Là, c'est peut-être pas tout à fait exact, mais sensiblement 16 minutes de jeu, si tu veux. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que contre une nation contre comme la Finlande, ça s'est quand même mal passé. Les Américains
se sont fait planter. Ouais.
Mais on l'a quand même vu. Il a bien fait. Il a bien joué. Je pense que l'aspect statistique, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, Sean Farrell, j'ai toujours pensé que c'est un excellent gars d'avantage numérique. Il est très, très bon pour circuler la rondelle. Il est patient. Il va attendre de trouver la bonne ouverture. Il va effectuer de très, très belles passes par la suite. Mais avec l'équipe américaine, on a un peu plus de talent. Il ne voit pratiquement pas d'avantage numérique. Donc, j'ai le goût de dire que sa production offensive est peut-être affectée pour cette raison-là. Il est quand même sur un 4e trio, joue avec de moins bons joueurs, des gars moins offensifs et tout ça. Donc, sur le plan offensif, moi, je n'attends pas trop parce que il n'y a pas les éléments pour l'avantager, dans le fond. Mais au niveau des détails, au niveau du positionnement, au niveau défensif, il est très, très, très bon. Ça va super bien. Je trouve que le premier match, je trouvais que c'était peut-être un peu plus difficile au niveau de l'exécution, le rythme de jeu. Puis là, il trouve son aise. Contre la Finlande, là, je l'ai trouvé exactement à point. Là. Comme là, il était à l'aise dans le rythme de jeu, la rapidité. Puis ça, c'est normal. Ça prend simplement des matchs pour ralentir le jeu dans ta tête, si tu veux, là, lorsque ça va un peu trop vite. Pas qu'il avait l'air fou, mais disons que ça l'empêchait d'être plus dominant. Là, ben, je pense que ça va. Évidemment, sur le plan physique, il doit prendre un peu plus de masse. Pas qu'il se fait déclasser complètement, mais de le faire, ça va faire en sorte qu'au lieu d'être simplement dans le coup et de perdre des batailles, ben, là, il va peut-être avoir un avantage supplémentaire. Ça va amener à améliorer ses probabilités. Je te parlais du jeu défensif. Là. Moi, ce que je trouve rassurant, par contre, j'ai parlé de l'avantage numérique ou ce qu'il n'évolue pas, mais il est utilisé en désavantage numérique, par contre, et il fait un méchant bon travail. Son bâton est bon, met de la pression, sans être le gars qui met tout le temps de la pression sur l'adversaire. Il coupe quand même l'oxygène à l'adversaire, si tu veux. Là. Là-dessus, simplement, je pense que c'est une très, très, très belle marque de confiance là, de l'équipe américaine. T'sais.
Bon, ben ça, c'est des bonnes nouvelles. Je suis bien content de l'entendre de ta bouche, Marty. Merci beaucoup à Marty pour ta présence au podcast. Encore une fois, très intéressant. Mais je veux aussi remercier Daphné Malbeuf, JP Glaude et Alexandre Gimbal qui étaient de passage avec nous au podcast La Relève cette semaine. Et on aura une autre édition encore très chargée la semaine prochaine. J'espère que vous y serez à la maison. Un petit dernier mot, Marty?
Ben écoute, encore une fois, on continue de suivre les espoirs. On adore ça, le hockey de série. C'est ce qui nous allume, c'est ce que j'adore par-dessus tout. Puis écoutez, soyez à l'écoute la semaine prochaine. On a déjà une petite surprise pour vous. On peut déjà vous confirmer qu'on l'aura. Là. On aura encore d'autres bons petits détails assez intéressants sur la vie du recrutement dans la LNH.
Exact. Alors, on vous souhaite de passer une belle semaine et on se donne rendez-vous dans 7 jours. Ciao.
Bye bye.